Mardi 14 février 2017, c'est la Saint-Valentin. Comment un homme dont on ignore tout, Valentin, est devenu, avec les siècles, l'emblème de la relation amoureuse de haute qualité. Comment une nation qui a le droit de se haïr 364 jours par an se sent-elle obligée d'aller dîner à deux avec un bouquet de violettes fanées une fois dans l'année. Seul, à deux, à plusieurs, s'aimer. Vaste programme, grande ambition, s'aimer. Mais quelle joie sublime et secrète que d'aller dîner seul le soir de la Saint-Valentin, sous les colibés, les risées, les huées, le mépris et la pitié, seul dans un restaurant, face à soi-même, à son passé, pas glorieux, à son avenir, pas certain, à son présent lourd, être seul face au couple, face à l'amour. Eh bien oui, je m'aime bien, je m'invite à dîner pour la Saint-Valentin. Alors, bonjour à tous.
Bonjour.
C'est peut-être bonjour.
Bonjour.
Je crois que c'est pas...
Vous avez entendu avec moi, Edouard, l'enregistrement là, qui vient de passer sur les ondes. Sinistre, non ?
C'est sinistre.
Vous en avez pensé quoi ?
Je connais le type, c'est quelqu'un qui n'est pas bien.
Ah oui.
François, qu'est-ce qui me garantit aujourd'hui que vous allez tenir pendant ces deux heures ?
Eh bien, c'est que j'ai un petit truc que je peux livrer aux auditeurs. C'est un truc que je tiens d'Henri Lecomte, qui lui-même le tenait de Borotra.
Oui.
Et qui est de jouer minute après minute, comme on dit, balle après balle.
Oui.
C'est-à-dire que je ne mets pas devant moi la perspective vertigineuse des deux heures.
Écrasant, oui. Non.
Sinon, je me dis, je ne tiendrai pas.
Oui.
Et je me tire une balle, entre guillemets, bien sûr, hein, puisque au sens
c'est super
figuré. Non, je me dis, je joue cette minute-là.
Cette minute.
Tiens, regardez voir, en voilà une qui est passée. Tiens, une autre m'attend.
Voilà,
mais pas celle d'après.
Vous jouez fond de cour aussi, et ça vous aide. La montée au filet de Thierry Paré. Vous avez vu toutes les métaphores tennistiques, c'est très très brillant.
Salut à tous. Légitime émotion suscitée par l'affaire Théo ne saurait en rien justifier les violences inacceptables qui se sont produites samedi et dimanche dernier à Bobigny et à Argenteuil. C'est la réaction dans un communiqué de Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, qui a également rappelé le devoir d'exemplarité de la police en toutes circonstances et pour toutes leurs interventions. Il a aussi salué à nouveau l'appel au calme, je cite, empreint de dignité lancé par Théo, qui est toujours hospitalisé à l'heure où nous parlons, et par sa famille. Cela n'a pas changé grand-chose, puisqu'il y a eu de nouveaux incidents cette nuit en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne, ainsi que du côté d'Angers, dans la région du Pays de la Loire. Le président américain Donald Trump a promis aujourd'hui de répondre très fortement aux essais de missiles de la Corée du Nord, après l'annonce par Pyongyang d'un nouveau tir d'essai réussi d'un nouveau missile balistique. On en parlait hier, c'était dimanche. La Corée du Nord est bien sûr un gros, gros problème. Nous en occuperons très fortement, a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse commune de la Maison-Blanche avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU, lui, s'est réuni hier soir à 23h. Il a condamné ce nouvel essai de ce nouveau tir de missile en promettant de nouvelles sanctions. Je ne sais pas s'il en reste encore des sanctions à produire contre la Corée du Nord.
Je ne sais pas non plus. Ne me regardez pas. Je suis bon sur la Corée du Nord. Là, je regarde si j'ai. Parce que j'ai repris un truc de la Corée du Sud.
Oui, je pensais que tu avais des éléments.
Vous qui êtes à la CIA, là, regardez s'il y a des trucs.
Non, il n'y a pas d'éléments.
Vous travaillez avec les services russes. Vous n'avez rien, vous ?
Oui, on peut leur couper le câble. Non, je ne sais pas.
Ça n'a pas déjà été fait, tout ça ?
Non. Contre eux.
Bref, dans un entretien...
C'est très mignon, votre réaction est très mignonne, il y a une vraie naïveté albigeoise.
Je crois qu'on appelle ça la réformite. Dans un entretien au Figaro, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, affirme qu'un avenir radieux avec une croissance de 2 à 3% est possible pour la France si des réformes sont engagées pour réduire les dépenses publiques et si les entreprises sont placées au centre des débats.
Il n'a pas dit avenir radieux, ça c'est vous qui êtes maoïste,
non.
Qui employez des vieilles expressions de Mao et du communisme chinois. Il n'y a pas d'avenir radieux chez Pierre Gattaz. Il y a simplement l'idée qu'en baissant de 2,5% les charges, on peut augmenter la consommation. On n'est pas dans l'avenir radieux, c'est pas des mots du MEDEF, mon vieux.
C'est ce qu'il a dit. Hein.
Mais non, il n'a pas dit. Alors c'est qu'il va beaucoup mieux.
4 morts, 3 membres d'une même famille et leur moniteur. C'est finalement le bilan d'une avalanche à Tignes. Une plaque de neige large de 400 mètres s'est détachée au passage des victimes, des snowboarders en l'occurrence, qui évoluaient à pied au moment du drame. Le poids du groupe a fragilisé une neige fraîche qui était battue par les vents. Les victimes étaient à pied et en hors-piste. Un hors-piste qui, rappelons-le, n'est pas interdit. mais déconseillée. Signalons aussi que le risque d'avalanche était élevé, mais pas critique, et que toutes les victimes étaient équipées pour ce type de sortie avec ce qu'on appelle des ARVA. C'est un système qui permet de détecter les personnes ensevelies. Des chercheurs australiens et danois ont découvert chez un ver un gène responsable de la sensation de satiété qui pourrait aider à combattre l'obésité. Ce gène contrôlerait les signaux du cerveau aux intestins et pourrait déclencher la sensation de satiété, ainsi que le besoin de dormir ou de faire de l'exercice après avoir mangé. Les résultats de cette étude, si cela vous intéresse, ont été publiés dans les comptes rendus de l'Académie américaine des sciences.
On peut être guéri de l'envie de faire de l'exercice.
C'est ça
que vous avez dit. Ah oui, ça serait important. Oui, vraiment, il y a trop d'envie de faire du sport en ce moment.
C'est reparti pour la Ligue des champions de football. Il y a plus que 16 équipes en compétition, dont le Paris Saint-Germain et Monaco. Coup d'envoi des huitièmes de finale ce soir. Benfica reçoit le Borussia Dortmund et le PSG reçoit Barcelone au Parc des Princes. Sans Thiago Silva, son capitaine qui est blessé à la cuisse. Demain, le Real Madrid sera opposé à Naples et Bayern de Munich sera opposé à Arsenal. On en reparlera bien sûr. Les autres rencontres auront lieu la semaine prochaine, notamment Monaco qui se rendra à Manchester City.
Il est 7h06. François Rollin, franchement,
oui.
Est-ce que ça va là ?
Oui, ça va. Non, mais... je veux pas dire, attention, je suis pas au taquet, hein, comme disent les jeunes.
Quel jeune, par exemple ?
Je ne suis pas la poignée dans le coin,
comme disent
les jeunes.
Je ne suis pas le perdreau de l'année, comme disent les jeunes.
Mais ça va.
Ça va.
Ça va, je tiens le coup.
Vous nous le diriez.
Nec,
vergiture.
Ah non.
Très bien.
Nec, vergiture.
Vous nous le dites parce que les gens, j'ai beaucoup d'appels et sur les réseaux sociaux,
combien
les gens disent, comment va Rollin ? J'ai des fanzouz. À tout de suite. J'envoie un truc qui n'existe pas. Je fais des gestes à Armel.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Je m'éclate, j'en peux plus.
Nova.
C'est le grand plateau d'information de 7h10. Plaisir d'apprendre, joie de transmettre. Chaque matin, dès 1h du matin, dans des établissements que d'autres appellent boîte de nuit ou bar, que nous appelons lieu de vie et de rencontre, ils sont à la recherche de l'information, du savoir pour mieux vous faire profiter de votre matinée. Autour de moi, François Rollin, qu'est-ce que vous avez appris ce matin que vous voulez nous faire partager ?
Alors, j'ai appris que les éléments sont très instables, d'une manière générale. Alors, j'imagine qu'on a combien de temps pour développer
tout
ça ?
Non, mais citez votre support. Vous avez vu ça dans quoi ?
Ah, j'ai vu ça dans les... Comment ça s'appelle ?
Les gazettes ?
Non, dans le marc de café.
D'accord. Marie Missé, qu'est-ce que vous avez vu ce matin, vous ?
Avec un micro, peut-être ?
Non.
Non, sans micro.
On n'a pas besoin de micro. On est en 2017, c'est fini tout ça. Pardon. Alors là, vous, le micro, machin, le MP3, le truc, les cassettes, le pick-up... Hein, le pick-up, non, comment ?
Le pick-up ?
Non, le comment ça s'appelle, on passait des disques. Le pin-up.
Non, le manche-disque.
Le manche-disque. Oui, mais ça s'appelait, hein ?
Pick-up.
Oui, quelle heure il est ?
Il est 8h.
Oui, quel pays on est ? Alors, Marie Missé.
Deux choses. La première, c'est le Parisien.
Alors, commencez par la deuxième pour montrer votre insolence.
La deuxième, je viens de la lire, c'est dans l'UMA, c'est la maison des chastes amants qui a été exceptionnellement préservée pendant près de 2000 ans sous les cendres et la lave du Vésuve à Pompéi. Eh bien, elle a rouvert aujourd'hui pour la Saint-Valentin.
Qu'est-ce que c'était, cette chambre des tendres amants ?
C'était une chambre de chastes amants. Alors, c'était la maison des chastes amants. Alors, est-ce qu'ils étaient vraiment chastes, puisque ça rouvre pour la Saint-Valentin ?
Alors,
c'est donc l'ouverture de la chaste.
Non, c'est là. De monsieur Jean-Jacques Perroni. De madame Grosper de Loche.
François Rollin.
Et maintenant, Pierre Bénichou.
Alors, non, hier soir, j'y arrivais plus.
Laurent Baffy, deux putains à café.
Alors, merci.
Alors, non. Donc, en fait, vous voulez dire que c'était recouvert par les cendres du Vésuve,
etc.
Il fallait la chercher, l'info. Hein.
Bah, elle est en première page de l'UMA, donc je ne suis pas allée la chercher.
Oui, mais l'UMA n'est pas en première page de la presse non plus, donc on est bon.
C'est vrai.
Alors, qu'est-ce que vous
Et dans Le Parisien, ils ont trouvé aussi une façon de traiter
aujourd'hui,
la Saint-Valentin.
Aujourd'hui, ne
le magnifique
pas.
Parisien du jour, Edouard. Il parle de la Saint-Valentin et ils disent que les gens aiment écouter de la musique en faisant l'amour. Ils donnent plusieurs conseils de quel genre de musique écouter. Pas de hard rock, pas de hip-hop. Ah. En revanche, le boléro de Ravel semble être le parangon de la musique du sexe, puisqu'il dure 15 minutes pile et qu'il va crescendo. Et on nous explique que c'est bien. C'est
une émission très produite, puisqu'au moment où vous l'évoquez, la musique passe.
Moi, tu vois, à ce moment-là, dans le boléro, je suis déjà endormi à ce moment-là. Je me suis endormi il y a très longtemps.
Tu me pointes du doigt.
J'ai
l'impression que la moyenne d'âge est 200 ans.
Non, si, à 200 ans, moi, je voulais juste faire un petit rappel d'où vient la Saint-Valentin.
Pas de chez moi.
Je me suis dit ce matin, je suis obligé d'aller boire un coup avec ma femme, en tout cas manger. Alors pourquoi ? Je suis allé vérifier dans l'excellent Wikipédia. qui nous dit que ça vient d'une fête païenne, qui a été transformée
dans l'Équipédia, c'est un mélange de l'équipe et de Wikipédia. C'est tout, c'est la version sportive de la vie.
De Wikipédia.
Dis donc, j'ai vu ta fiche dans l'Équipédia, il n'y a pas grand chose.
De Wikipédia et de Wikipédia.
Alors, c'est quoi? Ça vient d'où?
C'est une fête païenne qui a été transformée en une fête romaine. C'est la célébration de la louve de Rome, qui a allaité Rémus et Romulus, là, les deux jumeaux qu'ont créé Rome.
Les deux cons sur les bords.
Et ça s'est transformé en la fête de la fécondité. Puis la fête de la fertilité. Mmh. Donc il paraît que à ce moment précis de l'année, on est assez fertile. Voilà.
D'accord.
Ce qui correspond à ce que les petits oiseaux en ce moment sont en train de s'accoupler pour être prêts et être très, très nombreux au printemps. Voilà. Ça sert aussi à...
Peut-on avoir des rapports sexuels sans intention d'avoir des enfants ou est-ce une faute morale? Un grand débat présenté par Vatican FM. Bonjour, Père Rollin, bonjour.
Bonjour.
De plus en plus de jeunes aujourd'hui me disent, j'ai fait l'amour, j'ai fait l'acte de chair sans intention de donner la vie.
Eh ben oui, et je leur réponds, comme je leur réponds depuis des années, quel est alors l'intérêt? Hein, qu'est-ce qui a attiré de ça, si j'ose ainsi m'exprimer?
Bien sûr.
Hein, j'ai un vieil accent pour faire un imam qui va parler de fertilité, c'est possible ou pas?
Non. Oh, Marie Michel, vous avez autre chose, Marie, ou pas?
Je sais pas.
Vous donnez un micro. Attends.
Lui ai donné le micro.
Mais ne me réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quoi, vous, Tito?
Ouais, alors ce soir à la Saint-Valentin, il faut aller au restaurant. Il faut manger les cagouilles. Il faut manger les escargots. Alors les escargots, ils sont bien cuits. Pour bien les faire cuire, d'abord, il faut les passer à l'eau froide. Comme ça, ils sortent dehors, ils se croient encore à la maison. Et après, on augmente le feu très fort. Et ils meurent dehors. Comme ça, on n'a pas besoin de pique pour les manger. Ils sont dehors, on chope la petite antenne avec la bouche et on sort de la coquille.
Saint-Valentin, fête de l'amour, à tout de suite. Merci.
À tout petit. Cagou joli.
François Rollin me disait « J'ai envie d'être de mauvaise humeur ce matin » et puis ce morceau est passé, après ça c'est pas possible.
Ah oui,
c'est ça le problème.
C'est ce qu'on appelle la musique irradiante. C'est-à-dire que la joie qui en émane éclabousse l'ensemble de l'univers et probablement au-delà, selon certains experts.
Selon certains, merci pour ces mots. Bonjour Christophe Payet.
Bonjour.
Payette,
tout à fait. Merci.
Parce que vous êtes originaire de La Réunion.
Tout à fait.
Et vous ne pouvez plus supporter qu'on ne prononce pas le
titre. C'est insupportable. Maintenant, on demande le respect.
Voilà. Voilà. Et bien, vous l'aurez. Vous
merci,
avez le respect.
Merci à vous.
Christophe, toutes les théories de conspiration autour des algorithmes, on en est où? Des algorithmes, je vous rappelle que vous êtes notre conseiller.
En algorithme.
En algorithme. Que se passe-t-il? Est-ce que tout est encore de la faute des algorithmes aujourd'hui, le 14 février?
Ce qui est certain, c'est que ce qu'on appelle les algorithmes déclenche beaucoup de fantasmes, c'est-à-dire à la fois de la fascination et des peurs irrationnelles, alors que c'est un enjeu démocratique essentiel. C'est-à-dire que la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, vient de lancer un grand débat
c'est pour ça qu'on
sur les algorithmes.
Ça vient de partir. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, on disait, tiens, Trump a sans doute été élu parce qu'à cause des algorithmes, les gens sur les réseaux sociaux voient toujours des choses qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà choisies. On est confronté qu'à ce qu'on aime déjà.
Voilà, exactement. On en a beaucoup parlé au moment de l'élection de Trump. Les algorithmes semblaient être responsables de cette élection. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est de mettre à plat ces fantasmes pour s'interroger sur le pouvoir réel des algorithmes. Parce qu'en fait, de quoi il s'agit? Le problème des algorithmes, c'est que ce sont des systèmes de calcul. C'est des systèmes de calcul en fait, qui exploitent les bases de données, le big data, pour automatiser un certain nombre de décisions ou de tâches.
Alors pour simplifier, c'est si vous avez 1000 amis par exemple sur un social, sur Facebook, qui postent des choses, les algorithmes en sélectionnent certaines que vous verrez plus que d'autres.
Ils vont trier. En fait, il y a un système de calcul
suivant ce sur quoi vous avez déjà cliqué les autres semaines.
Par exemple, le problème de ces algorithmes, c'est qu'en fait, ils sont opaques. On ne sait pas exactement comment le système de calcul fonctionne. Ils sont opaques, ils sont pas neutres et ils sont conservateurs. Pourquoi? Et pourquoi ils sont pas neutres? Parce qu'ils ont été construits par quelqu'un. En fait, c'est pas des algorithmes comme ça qui sont dans l'absolu. Ils ont été conçus par un être humain
qui n'est pas Dieu, ce que vous dites n'a rien à voir avec la religion, attention,
et qui a établi en fait une règle du jeu. Cette règle du jeu, forcément, elle retranscrit une vision du monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'algorithme, il va favoriser ce que vos amis aiment? Est-ce qu'il va favoriser ce que le plus de monde aime? Est-ce qu'il va favoriser ce qui est considéré comme faisant autorité? Donc en fait, l'algorithme, il exprime une conception du monde. Et il y a le chercheur Dominique Cardon qui a écrit un livre sur le sujet avec un titre très poétique, À quoi rêvent les algorithmes? Alors ces algorithmes, ils sont pas neutres, ils sont opaques et ça c'est le problème, c'est qu'on connaît pas exactement la règle du jeu. On sait pas exactement comment fonctionne l'algorithme de Facebook, comment fonctionne l'algorithme de Google.
On sait pas si c'est fait, c'est ça pour vous amener vers ce que vous aimez, vous amener vers des produits de consommation, pour vous rassurer, pour vous inquiéter, on ne sait pas.
Bah, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont construits dans une logique économique. C'est-à-dire que, bien sûr, le but, c'est de vous faire rester sur les plateformes, de vous faire amener, de vous amener à ce que vous aimez déjà. Mais comment ils sont construits exactement, on ne sait pas bien. Et même dans le domaine public, vous savez que le choix de l'admission post-bac, il y a eu une polémique, puisque quand les lycéens choisissent leur choix post-bac pour l'université, c'est un algorithme qui, en fait, va prendre en fonction de votre dossier et de vos choix, va vous envoyer vers une autre université ou une autre. Et donc, il y a eu une grande mobilisation lycéenne pour dire on veut de la transparence sur le fonctionnement de cet algorithme. Et c'est important de connaître le fonctionnement d'un algorithme parce que ça permet éventuellement de reprendre le pouvoir, de le détourner. Exemple, les chauffeurs de Uber. Uber, c'est un algorithme qui vous met en relation avec un chauffeur et qui va déterminer le prix en fonction de l'offre et de la demande. À un moment donné, Uber a fait baisser ses tarifs et les chauffeurs, connaissant le fonctionnement de l'algorithme, se sont tous déconnectés en même temps. Ça a fait baisser l'offre de Uber, ça a fait monter la demande, ça a fait donc monter les tarifs. Et dès que les tarifs sont montés, ils sont tous reconnectés pour aller chercher les courses plus chères.
Donc on peut manipuler certains algorithmes.
À partir du moment où on sait comment ils fonctionnent. Et pour terminer, les algorithmes sont conservateurs, puisqu'en fait, ils utilisent vos actes passés pour déterminer ce que vous allez vouloir faire. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que ça prend en compte uniquement ce que vous avez fait, pas ce que vous voulez faire. Un exemple très, très basique, vous voulez arrêter de fumer, vous êtes fumeur, vous voulez arrêter de fumer, bah Facebook va vous proposer des pubs pour la cigarette. C'est la fin de la volonté, en fait.
C'est-à-dire qu'on croit, en fait, qu'on est chez nous sur un site, sur un réseau comme Facebook, on n'est pas du tout chez nous. On voit des choses qui ont été choisies
Qui ont été triées, et il y a très peu de gens qui se rendent compte que ce qu'on voit a été trié, effectivement. Et les algorithmes, enfin, reproduisent les inégalités parce qu'ils favorisent le plus gros, ils favorisent ce qui existe déjà, ils favorisent les logiques qui sont déjà en place. Et par ailleurs, en plus d'être conservateurs, les algorithmes sont un peu débiles parce qu'en fait, ils vont juste chercher des corrélations sans se demander s'il y a un lien de causalité. Ils peuvent voir une corrélation qui n'a aucun sens, qui relève de l'absurde. Il y a un chercheur d'Harvard qui s'est amusé à montrer l'absurde de ces règles en montrant qu'il y a une corrélation entre le nombre de films de Nicolas Cage et le nombre de noyades dans une piscine. C'est une corrélation et pour un algorithme, bah, ça fonctionne.
Merci Christophe. On leur donnera un droit de réponse tout à l'heure. C'est pas toujours les mêmes qui ont droit. Vous parliez de cigarettes. Pensez-vous que l'addiction à Internet soit pour votre génération l'équivalent de l'addiction à la cigarette pour la mienne?
Non, je pense que ça n'a rien à voir. Après,
j'aimais bien cette phrase. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Merci.
À tout ce qu'il a dit, moi j'ai tout compris.
Dis donc.
Non, mais je le dis, j'ai tout compris.
C'est pas miraculeux que tu aies compris, Atmen.
Mais si.
Vous êtes tout à fait intelligent. J'ai votre QI là, je suis épaté.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi, non là pardon, mais je suis pressée là.
Jacques Souvent, notre correspondant sur le terrain, est à Lyon.
Il y a des montagnes, il y a la ski, il y a tout, il y a beaucoup de châteaux, il y a beaucoup de choses.
C'est ça justement, la Transylvanie, la Transylvanie, c'est les châteaux pour nous dans l'univers, c'est que Dracula.
Oui, il y a beaucoup de châteaux à visiter, il y a une région superbe au niveau de nature, et il est vraiment magnifique.
Vous nous conseillez d'aller en Transylvanie, monsieur?
Bah, j'étais déjà, bah, j'habite là-bas.
Moi, je l'ai senti. Vous vivez la nuit, monsieur, non? Vous vivez la nuit?
Oui, j'ai vu la nuit aussi, si vous voudrez.
C'est bien compris. Vous nourrissez de tout? Vous mangez de tout?
Bah, je mange de tout, ouais.
Tout, j'ai l'impression.
Tout, qu'est-ce qui se tombe sur là?
J'ai compris. Vous mangez pas d'ail?
Un petit peu quand même.
Ouais, mais enfin, vous évitez les gousses d'ail, j'ai l'impression. Monsieur, qu'est-ce que vous trouvez la nuit? Quel type de victime? Je veux dire, qu'est-ce qui vous attire dans la nuit que vous ne retrouvez pas le jour?
Ben, la nuit, je ne trouve pas grand-chose parce que je ne trouve pas la nuit. La nuit, je dors. Je suis des journées. Je passe dans la journée, pas la nuit.
Mais quel type de... Quand vous marchez comme ça, que les gens vous abordent, qu'est-ce qu'on dit de vous?
Qu'est-ce qu'il dit? Non, parce que je...
Vous n'inquiétez pas. Vous êtes inquiétant, oui. Mais vous êtes... vous marchez, là? Qu'est-ce que vous faites dans Lyon?
Moi, je travaille maintenant.
Oui.
Je suis en train de monter des enfants dans deux. Je travaille.
Je reprends la
des
main.
Des enfants tondeuses?
Monsieur, oui, des enfants tondeuses. Monsieur était à l'arrêt dans son camion pour emmener des enfants qui ont des problèmes de locomotion,
oui,
on va dire. Et là, donc, j'ai interrompu cette conversation très, très transylvanienne, oui. pour qu'il puisse faire monter la personne dans le bus. Voilà.
Est-ce que, Jack,
François Rollin.
C'est François Rollin qui te parle. Est-ce que tu penses que par ce monsieur, on peut éventuellement organiser un dîner à l'ambassade de Transylvanie ?
Je pense que c'est possible. Je pense même qu'il peut nous emmener. L'ambassade de Transylvanie.
Ça dépend de la Roumanie, je pense.
L'ambassade de Transylvanie, c'est en Lyon 3.
L'ambassade de Transylvanie, c'est ?
Non. L'ambassade de Roumanie.
De Roumanie.
L'ambassade de Roumanie. Parce que l'ambassade de Transylvanie, c'est un nom qui s'appelle Brașov. Oui.
C'est loin d'ici ?
Oh là, 2200 km.
Et c'est là qu'on voudrait aller ?
Enfin, moi, j'ai pas très envie.
Si, si, Edouard.
Ah bon ?
Mais il y a un menu végétarien à l'ambassade.
Oui, parce que j'ai pas faim.
Tapis, il y a des
je vais vous demander, cher monsieur, sur un fond musical, de nous décrire un paysage transylvanien pour nous donner envie d'y partir en voyage. Le comité de France Transylvanie présente, tourisme en Transylvanie.
Savoie, si vous connaissez la Savoie, c'est un petit peu pareil que Savoie.
Beauté de la Savoie, remontée
oui,
mécanique.
Ouais. Oui, c'est ça.
Grand manteau blanc.
Bah oui, les grandes montagnes, 2400 mètres. L'altitude, vous avez tout, il y a à manger tout, qu'est-ce que vous voudrez, moi.
Tout ce qu'on veut à manger en ouais, Transylvanie.
Et ça, c'est, on a des gastronomies, vous inquiétez pas, parce que c'est un pays qui est accueilli, il y a de pour tout le monde.
Je ne m'inquiète pas, je suis très rassuré, monsieur. Château moyenâgeux.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Croissant de lune.
Des grandes églises. Tout, vous avez tout.
Des croix au-dessus de l'autel.
Oui.
Oui.
Ouais. Mais non, je suis
un prêtre en larmes.
Je
vous laisse, monsieur. Merci.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur.
En Transylvanie, la clientèle, c'est la carte.
En Transylvanie, allez-y. Un aller sans garantie de retour. Vous n'avez pas aimé ma recherche draculesque, François Rollin, je me sens dans... J'ai voulu tirer cette interview
vers... Il y a un petit côté anti-roumain, quoi.
Non,
quand même.
Non.
On a parlé de la mythologie transylvanienne.
Attention. On est
pas
dans la mythologie.
Ah, d'accord.
Je soutiens énormément ce qui se passe en Roumanie. Les grandes manifs. Vous savez que c'est rare que la rue arrive à faire céder un gouvernement. C'est ce qui est arrivé ces jours-ci à Bucarest. En Roumanie,
ah oui.
La manifestation populaire a réussi à faire céder le gouvernement. J'étais juste dans une mythologie vampiresque et draculienne. Mais je vois qu'on ne peut plus en France sur les ondes de Radio Courtoise Nova s'exprimer. Alors le journal de Thierry Paré, qui est un socialo-communiste.
Il ne sera pas resté longtemps en poste. Michael Flynn vient de démissionner. Le conseiller américain à la sécurité nationale
était
au centre d'une controverse pour avoir évoqué avec des diplomates russes les sanctions visant Moscou sans avoir de fonction officielle. C'est donc la première crise qu'on va qualifier de majeur, hein, d'ailleurs, de l'administration Trump. Donald Trump qui, par ailleurs, promet de répondre très fortement aux essais de missiles de la Corée du Nord. Une déclaration faite lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre canadien hier, Justin Trudeau. Pyongyang a annoncé le lancement d'un nouveau missile balistique. C'était dimanche soir. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni cette nuit en urgence pour condamner ce nouvel essai et menacer la Corée du Nord de nouvelles sanctions.
Vous avez vu ce qu'a fait Patrick Sébastien ? Il s'est moqué de Trump, c'est grave. Hein.
Ah, comment il a fait ?
Il a fait une émission qui s'appelait, je crois, Le Grand Bluff samedi soir. Ils y sont allés fort. Je crois que Trump
il s'est même excusé.
Oui, il était en Trump, il se prenait tarte à la crème.
Ah, avec
la gueule.
Une perruque et tout.
Il fallait le faire.
Oui. C'est la fête, c'est génial.
L'émotion légitime suscitée par l'affaire Théo ne saurait en rien justifier les violences inacceptables qui se sont produites samedi et dimanche dernier à Bobigny et à Argenteuil. Pardon, réaction hier dans un communiqué de Bernard Cazeneuve. Ça n'a pas changé grand chose, hein, puisqu'il y a eu de nouveaux incidents cette nuit en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne, ainsi que du côté d'Angers, dans la région Pays de la Loire. 4 morts, 3 membres d'une même famille et un moniteur. C'est finalement le bilan d'une avalanche à Tignes. Une plaque de neige large de 400 mètres s'est détachée au passage des victimes. Des snowboarders, en l'occurrence, qui évoluaient à pied au moment du drame. Le poids du groupe a fragilisé la neige fraîche battue par le vent. Les victimes étaient à pied et en hors-piste. Un hors-piste qui, rappelons-le, n'est pas interdit mais déconseillé. On va signaler aussi que le risque d'avalanche était élevé mais pas critique et que toutes les victimes étaient équipées pour ce type de sortie avec ce qu'on appelle des ARVA. C'est un système qui permet de détecter les personnes ensevelies. Des chercheurs australiens et danois ont découvert chez un ver un gène responsable de la sensation de satiété qui pourrait aider à combattre l'obésité. On se dirige vers un procès retentissant pour la star déchue du cyclisme mondial, Lance Armstrong en l'occurrence. Un juge fédéral de Washington a estimé valide les poursuites intentées par les autorités américaines à l'encontre du cycliste. C'est reparti pour la Ligue des champions de football. Il n'y a plus que 16 équipes en compétition. compétition, dont le PSG et Monaco. Coup d'envoi des huitièmes de finale ce soir avec deux matchs, Benfica contre le Borussia Dortmund et le PSG qui reçoit Barcelone au Parc des Princes. Et puis il se nomme Min Bahadur Sherchan, il est népalais, il a 85 ans en 2008, donc à l'âge de 76 ans, il a effectué sa première ascension de l'Everest. Il était devenu l'homme le plus âgé à avoir gravi le plus haut sommet du monde. Il a été détrôné en 2013 par un Japonais de 80 ans. C'est un coup trop dur pour le vieil homme qui a décidé de remettre le couvert. Il a essayé en 2013, mais il y a eu des lourdeurs administratives qui l'ont empêché. En 2015, c'était le séisme qui a causé la mort de milliers de personnes au Népal, qui l'a empêché de gravir l'Everest. Là, cette fois, c'est bon, tous les feux sont au vert, il va y retourner et il va le faire juste à la fin de l'hiver, là, à l'automne.
Dites mieux son nom, vous voyez, je trouve que
oui,
vous avez,
tout à fait.
Thierry Paré, vous êtes encore dans une France qui ne se fait pas à l'idée que tout le monde ne s'appelle pas Patrick Dupont. Eh bien, non,
c'est vrai,
les
c'est
gens ont d'autres noms, je vous demanderai de respecter toutes les voyelles et toutes les consonnes. François, vous allez tenir ou pas? Il y a François Rollin. Attendez.
Oui, ça m'a un petit peu perturbé cette histoire de Bahadur qui va sur les bras.
Et voilà, oui, il y a des gens qui commencent à embrouiller.
Donc je suis obligé dans ces moments-là, je suis obligé de penser à autre chose, de m'extraire, de vous oublier, de penser même que vous n'existez pas pour me ressourcer, me réenraciner dans le tréfonds de moi-même. Et dans un instant, je reviendrai parmi
vous. Ok, on prend ça.
Il y a quand même ce soir une petite épreuve pour les hommes, pour la Saint-Valentin. Il y a. PSG-Barcelone, ça va être dur. Ou d'aller au restaurant ou de regarder le match.
D'accord.
Moi, je trouve que c'est quand même une grosse information. Quand même.
Voilà, voilà. La météo de, la météo de Tito. Hein.
Pour ce soir, faut Bahadur.
Et maintenant, la météo flamenco de Tito.
Ne lui mettez pas son générique, vu qu'il est là en vrai. Tito.
Zai, 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 zai.
Zai, 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 zai.
Zai, 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 zai. Alors aujourd'hui, dans le Midi-Pyrénées, dans le centre, dans le Cotentin, normalement il pleut. Si vous regardez par la fenêtre, vous verrez la pluie. Ailleurs, des nuages et du soleil. Alors les températures sont Avignon entre 8 et 16, Clermont-Ferrand entre 6 et 13, à Dakar entre 12 et 27, à Paris 7 et 14, à Reims entre 3 et 12, Saint-Étienne entre 4 et 13, et Limoges entre 2 et 12. Attention ! Zai, 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 zai.
Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. La météo jaune à ça.
Zai, zai, zai. On y va ? Oh, 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 oh.
C'est la fête.
On peut plus, à tout de suite.
9h, plus près de toi.
Nova. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Bah, j'y vais à pied, j'habite à côté.
Ils ont écrit un livre à trois, donc ça fait trois invités sur deux micros, ils sont pas bien assis. En plus, je leur demandais quel plaisir d'écrire un livre à trois mecs, donc on se réunit au lieu d'inviter des charmantes copines à écrire avec. Enfin voilà, Julien Gouats, Sylvien... On dit pas Gouats ?
Non, on dit Gouats, mais c'est pas grave.
Mais pourquoi est-ce qu'on prononcerait les noms suivant ce que vous choisissez ?
Je suis d'accord, Gouats, c'est très bien.
Merci beaucoup.
C'est un peu original pour une fois aujourd'hui, je m'appelle Gouats.
Sylvain Lapoix et Henri Poulain. Alors, le jeune Panayotis qui est là à côté de Quotidien me dit, et des fans de vous, Datagol, il me dit c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. Parlez-nous-en, cher Thomas Baumgartner.
Oui, c'est ce qu'il y a de mieux depuis 2014, parce que c'est la date du début de Datagol qui était initialement et qui est resté d'ailleurs un programme en ligne. C'est une forme d'animation, ce sont des données qui s'animent devant nos yeux. C'est un propos sur le monde à chaque fois en trois minutes, ou un peu plus, ou un petit peu moins. On nous apprend beaucoup de choses à travers Datagol. C'était en ligne, c'est passé à la télévision. Il y a eu plusieurs formats ensuite. Vous avez complété ça par des interviews. On peut les voir toujours sur le compte YouTube de Datagol, ces vidéos. Et donc aujourd'hui, il y a un livre, Datagol, 38 sujets d'actualité décryptés, aux éditions Marabout. C'est une question un peu bête au départ, mais pourquoi...
Ah bah, ne la posez pas, attention, attention. Vous êtes sûr?
Je commence par la deuxième, c'est ça.
Dites du bien de vous, dites du bien de vous-même.
Non, non, c'est un peu bête, mais il faut la poser quand même. Non, mais c'est vrai, pourquoi un livre alors que vous aviez des images animées qui marchaient très très bien?
Je pense que justement pour arrêter un peu le mouvement, non
Ah, c'est bon, il faut arrêter.
Faire un album en même temps, calmer le jeu.
Pour laisser... ça s'est proposé comme ça, en fait. Nous, on était... Voilà, c'est une proposition qui nous est arrivée. On s'est dit, pourquoi pas tenter ce truc-là pour aussi toucher un public différent, essayer de partager ces questionnements, parce que c'est surtout des questionnements avec d'autres personnes. Voilà, après, ça n'a pas...
Il faut élargir le cercle, en fait.
Oui, parce que
les
c'est
éditeurs
pas...
arrêtent de nous emmerder aussi.
Si vous... La poids, pardon, non, j'ai mal compris. Non, mais là, une question, Henri Poulain, pour vous. Quand on regarde les vidéos de Datagol, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire c'est une combinaison d'informations qui crée un récit, d'information, un récit d'actualité souvent. Tout se passe dans le mouvement en fait. C'est le mouvement qui crée la compréhension.
C'est une sorte de pointillisme en mouvement animé, un pointillisme animé. C'est-à-dire que point à point, data par data, il y a un paysage qui se dessine, une ligne de force qui émerge et des choses qui se disent sur le monde. Mais c'est vraiment une histoire à partir de petits points.
Voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'une data alors pour vous ?
Une donnée, c'est un fait, oui. c'est un élément brut qui est inintelligible. Il faut créer du sens entre tous ces petits points comme ça qui ne demandent qu'à être rendu compréhensible.
Mmh. Alors, dans le livre, par exemple, parmi les sujets abordés, il y a le climat, il y a Amazon, il y a le modèle allemand, il y a le miel, le tabac, la surpêche. Donc, c'est assez varié. Et en même temps, il y a quand même une ligne éditoriale. Vous la qualifiez comment ? C'est notre environnement, c'est quoi ? C'est
constructiviste.
C'est dans le micro.
On choisit en fait des sujets qui se tiennent. C'est-à-dire que il suffit pas d'empiler des datas les unes sur les autres. Mmh. Les datas toutes seules, elles ne veulent rien dire. C'est dans leur environnement. Il y a pas de sens individuel à la data. C'est seulement si on les empile. Et quand on en discute ou quand on travaille avec Julien sur l'enquête en amont de l'écriture et de la mise en image, il y a cette notion de colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on va éviter la scoliose, on va éviter les trucs qui partent dans tous les sens et l'interprétation journalistique un peu aléatoire. On va creuser dans la profondeur de la donnée, de sa production, de sa naissance. Et finalement, il y a un moment où, à force, par effet de seuil, la masse fait émerger un sens à ces données. Et finalement, beaucoup de sujets s'y prêtent. Et il y en a d'autres qui ne s'y prêtent pas du tout et qu'on n'a pas traité alors qu'on avait commencé à bosser dessus, par exemple.
Par exemple ?
Par exemple, le maquillage, le tatouage des trucs, le vernissage.
Tous les trucs en âge, ouais, ça marche pas hyper bien.
Alors vous prenez un grand thème comme ça, universel, sur lequel on pourrait écrire des livres entiers. Et l'idée, quoi, en quelques dessins, quelques faits, quelques chiffres, d'arriver à nous l'éclaircir.
Oui, grosso modo, c'est ça. C'est 3 minutes. Au début, le format de base, c'était 3-4 minutes. Maintenant, c'est 12. Donc, sur 3-4 minutes, on prenait des sujets plus anglais. Sur 12 minutes, on peut creuser des sujets plus transversaux, plus larges. Et l'idée, c'est d'essayer d'empiler quand même pas mal de données, pas mal de faits. Pas juste par boulimie, mais par nécessité, justement, comme disait Sylvain, de corréler les données entre elles pour arriver à chercher du sens dans les questionnements qu'on propose. Parce qu'avec juste 2-3 données, on ne peut pas raconter grand-chose, en fait. On ne peut pas donner beaucoup de perspective, donc on est obligé d'amasser un peu de données pour à un moment donné se dire ok, on est dans telle dynamique ou dans telle autre et on essaye de voir ce qui se passe quoi.
En radio, ça donnerait quoi par exemple si on
donnait la météo marine? Je pense que la météo marine, c'est un peu notre modèle.
La météo marine par exemple, voilà. Si je vous dis la météo marine, comment on éclaircit sur la météo marine en quelques phrases à la radio?
Je sais pas, 10 sur Dogger, 15 vikings venant de Nord-Ouest, enfin je sais pas, c'est pour moi c'est ça. Julien son écriture, c'est ça, c'est vraiment Julien. Ça.
Mais parce qu'il y a 3 tankers qui passent au large de Corfou, alors à ce moment-là, on est obligé de raconter d'où viennent ces tankers. Et qu'est-ce qu'ils transportent dans leurs containers et dans ces containers, où sont fabriqués et combien d'ouvriers ont travaillé sur la fabrication de ce qu'il y a dans ces containers. Et à ce moment-là, dans combien de supermarchés ça va arriver, combien de camions il va falloir pour transporter ça, est-ce que finalement ça consomme plus et combien il y a au fond de la cale de petits rats qui vont pouvoir se nourrir grâce aux cacahuètes mangées par les membres de l'équipage.
Donc on voit en 3 minutes, on prend n'importe quel sujet, l'universel est là, tout est dans tout, tout est dans le détail. Si je prends ce stylo bic, vous racontez l'histoire du monde, l'histoire du plastique, l'histoire de l'écriture, l'histoire de ma main qui le tient.
Tout à fait.
L'histoire des ouvriers, l'histoire de l'usine, l'histoire des rapports nord-sud aussi que ce stylo implique pour être à ce prix-là dans l'endroit où vous l'achetez, après les conditions de travail des gens qui vont l'amener, aussi bien là-bas que ici.
Et la beauté de ce que je vais écrire avec, la
l'histoire
beauté.
L'histoire du sol sur lequel il vient de tomber.
La chute de ce...
Il est tombé.
La chute de la civilisation
donc
occidentale.
Donc la pesanteur.
Voilà, donc la pesanteur, donc Newton.
C'est un jeu d'esprit en fait, un peu, on peut s'amuser.
Oui, il y a un peu de ça, il y a un jeu
d'esprit. C'est oulipien quelque part, il y a un truc comme ça.
Et en même temps, la question c'est de trouver... de développer une information qui va nous concerner tous. Il y a quand même une ligne éditoriale qui est celle de DataGueule. Il n'y a pas que un jeu d'esprit sur trouver un sujet.
Non, mais
et voir...
Oui, c'est ça.
Henri Poulain.
C'est déconstruire des systèmes, déconstruire la manière dont fonctionne le monde et en essayant d'en voir les troubles, les failles, les limites et les problèmes qu'on pourrait éventuellement par la suite, sur lesquels après on pourrait réfléchir pour trouver des solutions.
Et puis, la ligne éditoriale, elle est très simple. On a la chance d'avoir la seule limite, c'est notre curiosité. Donc, on attrape des sujets qui nous questionnent. Et on se limite à juste se dire, tiens, ce truc-là nous a questionné. Pourquoi, comment, d'où ça vient, pourquoi les subventions fossiles, pourquoi le miel, pourquoi, enfin, voilà. Et donc, du coup, ça fait des sujets assez, assez génériques, on va dire, assez simples d'accès.
Transversaux.
Voilà. François, vous êtes en train de le feuilleter.
Oui, bon, c'est un peu plus difficile à consommer quand il faut lire avec ses yeux que quand il suffit d'entendre avec ses oreilles.
Oui.
Mais je suis absolument ravi du travail de ce trio de marxistes.
Post-marxiste.
Post-post. Oui, ça allait de soi, pardon.
C'est François Hollande, Radio Courtoisie, qui nous a rejoint ce matin.
Non, mais et puis, c'est aussi une manière de de faire de l'information sans commentaire, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est de l'information avec des faits, rien que les faits. Évidemment, il y a des auteurs, vous êtes les trois auteurs, mais est-ce que c'est ça aussi l'idée de DataGueule?
S'il y a un commentaire, il est à la première personne. C'est-à-dire que c'est surtout pas au-dessus, c'est pas Deus ex machina. Il n'y a pas de point de vue immanent qui préexisterait ou qui serait comme ça le fruit naturel d'une pensée profonde. Il y a effectivement un point de vue à hauteur d'homme, le nôtre finalement, celui qui se dégage, un point de vue qu'on dirait citoyen, même si le mot est parfois un peu lourd à porter, mais quand même.
Ce que je trouve citoyen, c'est qu'au lieu d'inquiéter, ça rassure, c'est-à-dire que la complexité du monde devient joyeuse.
Bah, la compréhension, ça rassure. Enfin, je pense que le connaître, finalement, on déconstruit les questions qu'on se pose habituellement sur les migrants, la cistana, etc., pour se dire que la vraie question, elle est ailleurs, finalement. La vraie question de la cistana, c'est quel est le seuil de richesse. La vraie question sur les migrants, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on laisse des gens à la porte.
Oui, et puis c'est vraiment cet enjeu-là de se dire la complexité du monde, on peut se l'emplafonner, on peut aller la chercher sans que ça soit nécessairement chiant, on peut, avec de la pédagogie, avec l'envie de partager cette complexité-là, assumer de la déconstruire, et ensuite pouvoir laisser le champ un peu ouvert pour reconstruire autre chose. Du coup, une fois que les pièces sont détachées sur la table, bah, on peut jouer à faire autre chose, quoi.
On peut comprendre.
Merci messieurs. DataGueule, 38 sujets d'actualité décryptés aux éditions Marabout. Pour toutes celles et ceux qui veulent explorer le mécanisme parfois grippé qui nous entoure. Julien Goetz, vous êtes co-auteur de ce livre. Tout à l'heure, on vous a appelé Gouatz. Est-ce que le fait de tordre les noms propres pour les amener ailleurs n'est pas une tentative de vous amener vous-même en dehors de vous-même et n'est pas un cadeau que je vous ai fait formidable?
Exactement, ça m'a déplacé ce matin, je me sens un peu différent.
Oui, c'est ça, d'avoir un autre nom, c'est un autre destin qui serait lié?
C'est l'ouverture d'autres possibles, on va
bien
dire.
Bien sûr.
Voilà, avec Gouatz, il y a des sonorités différentes qui arrivent, il y a peut-être un petit peu du Brésil.
Il y a des mots très simples hein, dans ce genre de cas de figure, c'est merci Edouard. Hein, je ne les entends pas là pour l'instant.
Parce qu'on mène un peu la vie de son nom, forcément. C'est vrai que si on s'appelle Adolphe, c'est d'autres destins que si on s'appelle Jean-Bernard. Merci messieurs d'être venus ce matin. Vous êtes superbes et souples. À très bientôt. Tu étais à Toulouse pour faire quoi?
Pour être avec mes grands-parents.
Et là, quand tu es à Toulouse, tu restes dans la ville ou tu vas te balader dans la campagne?
Des fois, je vais à Arbas, c'est là. Ils ont une autre maison là-bas.
Mais là, on se balade dans la campagne, tu vas aux champignons.
Oui.
Tu vas traire la vache?
Non.
Non. Tu n'as jamais traire une vache?
Non.
T'es jamais dans une ferme?
Non.
Tu voudrais y aller?
Oui.
Quels animaux t'aimerais bien voir?
Des moutons, j'en ai déjà vu.
Oui. Mais si tu vois un mouton, tu ne vas pas le tondre pour te faire un pull tout de suite,
non.
C'est juste pour le voir, oui. Bon, voilà. Non, parce que Tito, qui est là, il connaît bien les moutons aussi.
Oui.
Hein?
J'en avais tondu tellement que je ne savais plus quoi faire de la laine.
Alors là, tu es venu surtout pour un poème, Sam, quand même,
oui.
Parce qu'on peut parler moutons pendant des heures, mais c'est vrai que c'est une rubrique. D'ailleurs, écoutez un petit jingle qui plaît beaucoup.
Bon Dieu, qui sont mignons ces petits.
Un enfant, un poème.
Voilà, ça c'est vraiment, on est très très fiers de nos jingles. Tu m'as parlé d'un sport que tu fais, comment ça s'appelle?
Le Viet Vo Dao.
Mais j'ai jamais entendu parler de ce truc-là, qu'est-ce que c'est?
C'est un art martial.
Qui est vietnamien?
Oui.
C'est vietnamien, et alors ça consiste en quoi? Comment on fait?
On donne des coups de poing, des coups de pied.
Ah oui, ça a l'air bien. Ouais. Alors on va voir. Tiens, viens. Tiens, venez, excusez-moi une seconde. Hein. Oui. Viens une seconde. Tiens, avec Atmen.
Pourquoi moi?
Parce que dis donc.
Vous
êtes là. Alors vas-y, entraîne-toi. Alors Viet Vo Dao, on est là. Mais c'est pas l'idée, c'est pas de donner des coups. Il y a sûrement une philosophie
de vie qui va avec.
Alors vas-y. Donc là, Atmen arrive très menaçant.
Dis donc, toi!
Très très alcoolisé, voilà. Sam qui a 10 ans s'est garé en double file. Et là, Sam.
Tu me fais quoi?
Ah oui.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc on est là, mais c'est évidemment.
Très fortement.
Le pied monte très haut, le vent d'Atmen est touché au foie, le foie d'Atmen. C'est vraiment une zone qui est très sensible. Mais enfin. Voilà, effectivement. Alors reviens, Sam, on va calmer le jeu. Voilà. Ta force, Sam, c'est que tu fais à la fois le Viet Vo Dao et tu dis de la poésie aussi. Puisque tu m'as dit le poème de Jacques Prévert, tu l'as appris pour le plaisir.
Oui.
Et ben voilà. Voilà, sport de combat et poésie, c'est l'intitulé. On t'écoute, Jacques Prévert, Démons et Merveilles.
Démons et Merveilles, vents et marées. Au loin, déjà, la mer s'est retirée. Mais dans tes yeux, Et toi, comme une algue doucement caressée dans le vent, dans ton lit, tu remues en rêvant. Démons et Merveilles, vents et marées. Au loin, déjà, la mer s'est retirée. Mais dans tes yeux, entrouverts, de petites vagues sont restées. démons et merveilles, vents et marées, de petites vagues pour me noyer.
Est-ce que tu penses que c'est bien, que tu seras bien construit dans l'avenir si tu sais plein de poésie, que tu fais plein de viettes?
Oui.
Tu seras un homme complet. Qu'est-ce qui manque comme activité? Qu'est-ce que tu voudrais savoir faire d'autre?
C'est tout.
C'est tout. Très bien, ça me va. Très très bonne journée, ça.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Plus près de toi, non là pardon, mais je suis pressée là.
C'est fou ce qu'il y a comme musique et comme conversation entre les pubs, il y en a beaucoup trop. Hein. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le matin pour la pub, sont gênés qu'on parle autant. Mmh. Tenez, écoutez François, vous avez un petit générique, un petit jingle. Mmh.
L'animal du mardi.
Oui,
oui, ça laisse à penser que l'animal du mardi serait le chien ou le hibou.
Non, c'est pas
non ça. Aujourd'hui, c'est le moucheron.
Oui.
Alors, le moucheron, Edouard, est un animal agressif et inconséquent. Il est agressif dans la mesure où il attaque frontalement le pare-brise des automobiles et la visière des casques de motards. Et il est inconséquent parce que sur les 143 milliards de confrontations recensées depuis la création de l'OCAM, l'organisme de comptage des agressions de moucherons. Sur ces 143 milliards de confrontations, le moucheron n'est pas sorti vainqueur une seule fois. N'importe quel animal sensé en déduirait qu'il lui faut se rabattre sur des cibles mieux adaptées à sa morphologie et à son énergie cinétique. Le moucheron, lui, s'entête. C'est la raison pour laquelle je ne plains pas les moucherons morts. J'en suis arrivé, Edouard, à un tel point d'indifférence que certains jours, des moucherons meurent dans mon quartier et je ne suis même pas au courant. À présent, le petit plus de Nova, ne confondez pas la vision de moucheron due à l'hypertension artérielle avec celle qui est due à la présence de pommes pourries. Par conséquent, avant de consulter un cardiologue, inspectez votre corbeille de fruits.
Merci infiniment, François oui. Rollin.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cote-cote-cote.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Qui font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Edouard Baird.
J'ai Tito qui siffle là. Vous êtes enregistré vous-même quand j'étais pas là. 8h et 23 secondes, c'est le journal de Thierry Paré. J'aime bien des trucs un peu comme ça, un peu radio, FM. Tadam.
Et du moucheron à la chenille, il n'y a qu'un pas. Une chenille particulièrement vorace, venue d'Amérique, ravage en ce moment les cultures céréalières de plusieurs pays africains, faisant craindre des pénuries alimentaires. L'ONU s'est saisie de cette affaire très sérieuse. Une réunion d'urgence est prévue aujourd'hui à Harare, c'est la capitale du Zimbabwe, afin de prendre des mesures contre cette larve. Un petit tour et puis s'en va. Michael Flynn vient de démissionner. Moins d'un mois après son entrée en fonction, le conseiller américain à la sécurité nationale, ancien général, fidèle de la première heure de Donald Trump, était au centre d'une controverse pour avoir évoqué avec des diplomates russes les sanctions visant Moscou avant même d'entrer en fonction officiellement. C'est donc la première crise de l'administration Trump. Donald Trump qui promet par ailleurs de répondre très fortement aux essais de missiles de la Corée du Nord. Une déclaration faite lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Pyongyang a annoncé le lancement d'un nouveau missile balistique. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est saisi de cette question et s'est réuni cette nuit en urgence pour condamner ce nouvel essai et menacer la Corée du Nord de nouvelles sanctions. Les suites de l'affaire Théo, François Hollande et Bruno Leroux, le président et le ministre de l'Intérieur, vont se rendre en Seine-Saint-Denis ce matin. Il y a eu de nouveaux incidents cette nuit en Seine-Saint-Denis, ainsi que dans l'Essonne et du côté d'Angers aussi, dans la région Pays de la Loire. Les députés et les sénateurs ont rétabli le délit de consultation habituelle des sites djihadistes. Cette mesure a dû être réécrite après avoir été censurée par le Conseil constitutionnel. Les magistrats avaient estimé que le texte portait atteinte aux libertés fondamentales, alors que la France était déjà dotée d'un arsenal législatif important pour lutter contre le terrorisme. 4 morts, 3 membres d'une même famille et leur moniteur, c'est finalement le bilan d'une avalanche à Tignes. Une plaque de neige large de 400 mètres s'est détachée au passage des victimes, des snowboarders qui évoluaient à pied au moment du drame. La pied est en hors-piste. Des chercheurs australiens et danois ont découvert chez un ver un gène responsable de la sensation de satiété qui pourrait aider à combattre l'obésité. On se dirige vers un procès retentissant pour la star déchue du cyclisme mondial. Un juge fédéral de Washington a estimé valide les poursuites intentées par les autorités américaines à l'encontre de Lance Armstrong. C'est reparti pour la Ligue des Champions de football. Il n'y a plus que 16 équipes en compétition, dont le PSG et Monaco. Coup d'envoi des huitièmes ce soir. Benfica reçoit le Borussia Dortmund. Le PSG reçoit Barcelone au Parc des Princes. Les autres rencontres demain et la semaine prochaine. On n'en a pas parlé hier, mais c'était la fin des festivités du Nouvel An chinois ce week-end. Dans la plupart des villes du pays, l'événement est célébré en lançant dans le ciel des lanternes. On appelle ça le Festival des Lanternes. C'est un événement qui est assez spectaculaire. Mais à Canton, on a décidé d'abandonner les traditionnelles lanternes pour les remplacer par des drones. Et du coup, un nuage de drones a envahi le ciel de la ville. Des milliers d'appareils qui changeaient de couleur et de trajectoire de vol pour former des figures, des symboles divers en fonction de la musique, parce qu'il y avait aussi de la musique. La performance, elle a été inscrite au Guinness Book des records pour le plus grand nombre de drones en action.
Mais comment vous le savez ça, par exemple ?
Parce que c'est un métier, journaliste.
Non, mais vous le savez d'où, par exemple ? Justement, faites-nous partager votre métier. D'où vous le savez ?
Bah ça,
vous n'y étiez pas, par exemple ?
Non, j'y étais pas. Mais ça, tu le retrouves en image un peu partout. Hein.
Mais où, par exemple ?
Sur n'importe quel site d'information classique.
Ah, donc là, c'est pas le journaliste qui parle, c'est l'observateur qui va sur les sites d'information.
Bien sûr.
Donc c'est les autres qui vous ont informé qui sont journalistes.
Qui étaient sur place.
Donc, mais eux, comment vous savez ?
Mais qu'on filmait.
Parce que si je les appelle eux, qu'ils disent eux-mêmes, ils le tiennent d'autres gens. Vous voyez ? C'est grave ce que vous faites.
Si
ça se trouve, c'est faux et Canton n'existe même pas. Peut-être que la Chine n'existe pas. Allez vérifier. Moi, je n'y crois pas à toutes ces histoires de Chine. Je vous le dis franchement.
Flagellé.
Je vais retourner dîner chez les Trump ce soir. Suivez. On continue. C'était tout ?
Bah oui, non, il y avait un mot de météo quand même pour finir qui était
et
important.
Et alors, si vous dites la météo, Tito, il fait quoi ?
Non, mais là, c'est les intempéries qui touchent le sud de la France depuis le week-end dernier, qui se poursuivent aujourd'hui. C'est quand même à noter. Il y a 4 départements qui sont en alerte orange. Forte pluie, inondation éventuelle. C'est l'Aveyron, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Voilà.
Il faudrait changer le nom parce
que
alerte orange, ça a l'air sympa, si vous voulez. C'est une couleur qui rassure.
Il faudrait
un autre type d'alerte. Alerte
noire.
Non, faites attention.
Gris.
On part chez Jacques souvent dans la rue.
Gris foncé.
Merci Thierry.
Moi, j'adore ce que je fais, traverser la ville comme ça par hasard et rencontrer la trajectoire de l'or.
Quelle ville ?
On est à Lyon, rue Paulbert.
Oui.
Et traverser la trajectoire de l'or avec une petite valise, mais j'étais loin de m'imaginer que dedans il y avait des choux, des maïs.
Peut-être ses émotions, c'est une petite valise.
Des marionnettes.
Des marionnettes ?
Oui, exactement, c'est ça.
Louise,
et où est-ce que je vais avec tout ça ?
Ah bah si vous vous posez à vous-même les questions, moi je vais rentrer me coucher.
Bon, je vais vous le dire alors.
Oui.
Je vais dans une école maternelle.
Donc vous allez à nous. Oui.
Et je sors de la gare de la Pardieu et je marche pendant 20 minutes avec ma petite valise remplie de choux, de maïs, de navets et de marionnettes pour me rendre sur mon lieu de travail.
Alors j'imagine qu'il y a des usages très différents pour les uns et les autres. Marionnettes, choux et navets, ce n'est pas du tout le même emploi.
En effet, oui, les légumes, c'est pour travailler avec mes petits élèves les légumes d'hiver, et les marionnettes, c'est pour les faire parler.
Alors voilà. Lyon, c'est la capitale de la marionnette. Est-ce que vous-même, vous pratiquez l'art de la marionnette ?
Alors je le pratique uniquement dans ma classe.
Alors, je vous propose qu'on fasse les marionnettes tous les deux. Je vais faire Niafron, François-Rolin fera le gendarme et vous ferez la fiancée de Niafron. Et Jacques Souvent fera Guignol. Attention,
okay. C'est
parti.
Ça marche.
Bonjour, Guignol.
Oh, Guignol.
Mais où est-il passé ? Où est-il passé ? Hein, les enfants, vous l'avez vu ?
Non.
Ah, où se cache-t-il, ce diable ?
Là.
Pardon ?
Je ne l'ai pas vu, Guignol.
Moi, je suis en train de réaliser que effectivement, il y a un plus visuel dans la marionnette que là, nous n'arrivons pas bien à restituer.
Ça aide quand même.
Ce qui aide, c'est aussi qu'il y a un scénario, qu'il y a une histoire. Ça peut aider aussi.
Exactement.
En tout cas, est-ce que c'est très misogyne, Guignol, puisqu'on ne retient jamais le nom de la fiancée ? On connaît Niafron, Guignol, le gendarme. Et comment s'appelle la fille dans Guignol ?
Je ne me rappelle plus. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Non, j'en ai vu, les Guignols.
Est-ce que les femmes ont été oubliées dans l'univers de Guignol ?
Oui, un petit peu.
Personne ne sait ?
Il y a Niafron, Guignol, il y a le gendarme. Mais non,
ils aiment bien les enfants quand
c'est
vous
pas Capucine.
Marquise,
oui, c'est
Capucine, non ?
Comment ?
C'est pas une marquise ?
Non, c'est pas Capucine.
Non, arrêtez avec tous les comptes à régler avec les aristos. Ça suffit, Thierry Paré. Je sais que vous les coupez des
c'est
têtes
pas Capucine,
avec les pinsons. Bon, alors écoutez, les enfants, ils aiment bien les marionnettes ou pas ?
Ils adorent. Ça les captive.
Et les navets, les carottes, ils aiment bien aussi. Je suis fatigué.
Ils adorent aussi.
Oui. Est-ce qu'on peut faire des marionnettes On peut faire des marionnettes, fabriquer des marionnettes avec des navets et des carottes pour faire le nez et puis des choux-fleurs pour faire les oreilles.
Tout est possible.
Louise, je suis fatigué, je vous le dis. Comment ça va, vous, dans la vie ? Ça va ? Vous n'êtes pas fatigué ?
Ça va, je me lève un petit peu tôt, mais peut-être moins que vous.
Vous avez une voix très souriante. Vous êtes amoureuse en ce moment ?
Oui, mariée.
Mariée ? Et vous êtes mariée avec la personne dont vous êtes amoureuse ?
Oui.
C'est formidable. Quel est son prénom?
Jean-Baptiste.
C'est démodé la Saint-Valentin ou vous allez faire quelque chose?
Ah non, on va rien faire du tout, en tout cas pas ce soir, il n'est pas là. Donc on reportera.
Mais est-ce que vous, oui, c'est parce qu'il n'est pas là ou c'est parce que l'idée de ne rien faire est plus forte que de faire quelque chose pour la Saint-Valentin?
Non, nous, la Saint-Valentin, c'est toute l'année.
C'est
on
très bien.
On ne fait rien de particulier le 14.
Vous êtes formidable. Je passerai dîner avec vous. On vous embrasse très très fort, Louise. Bon navet,
aussi.
Bon niafron.
Bonne journée.
Oui. Tiens, il y a la rubrique mondaine d'Atmen Khelif maintenant, parce qu'il faut un petit peu de rue, un peu de mondanité. Atmen, oui, Atmen, comment oui. Ça va? Atmen, vous êtes oui. Notre chroniqueur mondain.
Oui, tout à fait.
Vous étiez, on a parlé ce week-end, il y a eu beaucoup d'événements.
Oui,
il y a eu
beaucoup
les victoires de la musique. Il y a eu les BAFTA, les prix du cinéma à Londres. Il y a eu les prix du showbiz américain, comment ça s'appelle?
Les Grammy
Awards. Vous étiez aux victoires de la musique parce que c'est moins loin, c'est moins cher
d'y aller. Parce que c'est français, c'est de chez nous, voilà.
Oui, qu'est-ce que vous avez vu?
Alors, quelle était l'ambiance? Alors, TVTC est venu me chercher très tôt. J'étais en fourrure et je suis arrivé directement backstage avec mon pass All Access. Et je suis arrivé direct parce que moi, la musique, ça m'intéresse pas.
Non,
j'étais plutôt
foutez.
Sur le buffet.
Oui.
Alors, il y a un grand retour du cidre, mélangé à la vodka Grey Goose, comme ça, et deux olives. Je m'en suis tapé une dizaine en écoutant la musique. Et mon petit Amir n'a pas gagné. Et c'est ça qui m'a un petit peu désolé. J'étais
Amir,
là.
Amir devait gagner.
Amir, qui avait quand même gagné, qui est arrivé quand même sixième, mon grand, à l'Eurovision, n'a rien gagné. Alors bon, moi, j'ai picolé avec lui en criant
Youhou.
Voilà. Et en partant, voilà. Foutu dehors. On m'a même pas donné le petit sac avec les cadeaux, genre le portable.
Il y a des cadeaux. On donne
oui,
des cadeaux.
Oui, des cadeaux. Il y a écrit Zénith.
Quelle est l'ambiance dans les coulisses? C'est amical?
Les gens vous poussent, vous bousculent. Ouais. Moi, j'ai envie de payer des coups et tout le monde me dit, mais reste pas là.
Il y a des anecdotes, il y a du croustillant.
Il y a du croustillant. Mais Renaud qui n'était pas là, qui était en hologramme, et je pensais qu'il allait être là pour tituber avec lui, il n'était pas là. Il y a eu de la fauche un petit peu. Hein. Moi, je suis reparti sans mon manteau. Voilà.
Non, tu ne vas pas rire à tes propres blagues. Enlevez-moi, Armel, enlevez-moi son muscade. Tu ne vas pas.
Tu vas pas
faire ton propre ruquier, tu vas pas rire à tes
non,
propres blagues.
Non, c'est pas
blagues.
Ça, c'est parce
allez,
que
envoyez
je voyais
des...
la consternation de la ruquier.
Envoyez des trucs.
7h-9h, plus près de toi. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Qu'est-ce que je dois te dire? Mais qu'est-ce que je fais là?
Alors vous, je ne sais pas, mais nous, oui, à 8h12, Thomas Baumgartner est souvent en présence de Jacques de Maillard. Ça tombe bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
En tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bonjour Jacques de Maillard.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et vous êtes notamment l'auteur avec Fabien Jobard de Sociologie de la police qui est paru il y a un an et demi chez Armand Collin. On voulait parler avec vous justement de la question de la relation entre la police et les citoyens, évidemment après l'interpellation ultra-violente la semaine dernière de Théo à Aulnay-sous-Bois et puis des révoltes qui ont eu lieu ce week-end et puis aussi d'une déclaration pas anodine qui a eu lieu hier matin. C'est Jacques Toubon qui est aujourd'hui défenseur des droits qui en parlant justement de cette interpellation ultra-violente a parlé non pas d'un fait divers mais d'un fait de société, ce qui implique justement cette question-là de la relation. Ce que deviennent les relations entre la police et les citoyens en général et dans certains quartiers en particulier. Est-ce que depuis, comme par hasard, 2005 par exemple, ces relations ont changé, ont évolué et dans quelle mesure?
Oui, ce qui est intéressant dans ce que dit Jacques Toubon, c'est qu'il ne résume pas cette histoire à un seul acte individuel d'un policier qui a dérapé. C'est qu'il l'inscrit dans des relations qui sont détériorées durablement. Depuis 2005, très difficile de dire si quelque chose a changé parce qu'on n'a pas d'indicateur pour le mesurer. Et ce que l'on voit, c'est qu'on est dans un état général où quand on demande aux gens qui habitent dans les quartiers HLM est-ce que la police contrôle certaines personnes plus que d'autres. Enfin, il y a toute une série d'enquêtes qui sont conduites et qui le montrent. Il y a le sentiment que la police est plus irrespectueuse, qu'elle est moins impartiale qu'elle ne l'est ailleurs. Donc, et ce que j'aimerais souligner, c'est quand même deux autres choses. La première, c'est que ce différentiel-là, il n'est pas uniquement concentré sur les seuls jeunes hommes. On le trouve aussi dans la population adulte plus généralement. Et le second point, pour souligner quand même que la question est compliquée, c'est que quand on demande aux gens qui habitent dans ces quartiers-là, la police laisse tout passer. Quand on leur pose la question, ils sont plus nombreux qu'ailleurs. Donc on est vraiment dans une situation qui est compliquée, où il y a une demande de sécurité, mais où la réponse policière actuelle pose sans doute autant de problèmes qu'elle n'en résout.
Est-ce qu'on peut imaginer la mise en place, parce que vous le dites à l'instant, il n'y a pas de chiffres sur les violences policières. C'est assez étonnant. On était tout à l'heure avec l'équipe de Datagueule. La question des données aujourd'hui est fondamentale, la statistique. Ça devient un outil qu'on peut utiliser, que tout un chacun peut assez facilement, plus qu'avant en tout cas, utiliser. Aujourd'hui, vous nous dites, il n'y a pas de statistiques. Pourquoi ?
Alors, il n'y a pas de statistiques sur l'usage de la force par la police. On n'a pas l'inspection générale de la police nationale va mettre en place un outil de collecte des blessés jusqu'à décès pour 20 jours d'interruption temporaire du travail minimum. Mais jusque-là, on n'avait aucun instrument de mesure par l'institution.
Parce qu'elle est mise en cause elle-même dans ses violences.
Alors, elle aurait pu faire, et c'est visiblement le calcul que fait l'inspection générale de la police nationale, c'est que l'absence de chiffres, c'est aussi ce qui alimente le soupçon. En tous les cas, on n'en a pas.
Alors, oui, pardon.
Et juste un deuxième élément sur lequel on a aujourd'hui quasiment rien, c'est le nombre de contrôles. Vous allez à New York, vous avez un enregistrement des contrôles. Est-ce que le nombre de contrôles est transparent ? Il y a eu toute une série d'actions pour avoir le nombre du New York Police Department. Mais le département les enregistre. Ils n'ont pas été toujours transparents, mais ils les enregistrent. En Angleterre, on les enregistre. Pour une institution, savoir combien il y a de contrôles, quand, par qui, comment, c'est quand même, sur un enjeu de société aussi important, c'est quand même un outil de pilotage des politiques qui est central.
Alors on sait qu'en France, il n'y a pas de statistiques raciales puisque c'est interdit. Vous voulez dire qu'il n'y a pas non plus de statistiques sur les... Parce qu'on parle de violences policières, mais ça peut commencer très tôt. Il y a un type de contrôle, il y a un type de... On peut ressentir comme une violence le fait qu'on vous demande votre identité plusieurs fois par jour. Il n'y a pas de statistiques générationnelles sur le nombre de fois où on risque d'être arrêté dans une vie pour qu'on vous demande votre papier. Moi j'avais lu, je croyais, qu'un jeune avait 7 fois plus de chances d'être contrôlé que quelqu'un de plus âgé.
Parce que, heureusement, des enquêtes sont conduites. Des enquêtes sociologiques. Il y a eu une enquête internationale qui a été conduite par l'Agence européenne des droits fondamentaux. Des collègues, moi-même, avons conduit des enquêtes sur la base de financement scientifique. Donc, heureusement, oui, on a quand même des données. Ce que je voulais signaler
enfin, c'est
là,
un peu c'est indéniable qu'un jeune homme noir sera beaucoup plus contrôlé qu'une vieille dame blanche dans une journée, quand même, ou dans une vie.
Oui, ça, c'est, on peut considérer que c'est pas complètement surprenant. Ce que montrent les études anglaises, c'est que le surcontrôle existe, même à comportement égal. C'est-à-dire, il pose aussi des questions sur est-ce que vous avez consommé du hashish lors des dernières semaines, combien de fois vous sortez par mois, etc. Et toute chose égale par ailleurs, il y a quand même un surcontrôle des jeunes d'apparence minoritaire. Et donc ça, c'est vrai que ça pose une question dans une société, c'est que c'est pas du tout ressenti comme tel par la majorité de la population. Parce que la majorité de la population, on a une police qui en France contrôle un peu plus que les autres pays, que les autres polices occidentales, pour les quelques études qu'on a. Mais la majorité de la population n'est pas contrôlée. En revanche, le niveau de contrôle sur les jeunes est très important. Et sur une partie de la jeunesse...
Cette minorité est surcontrôlée. Il y en a d'autres qui est normalement contrôlée, comme dans le reste du monde, vous dites. Mais cette minorité-là, générationnelle et on pourrait dire ethnique, tout à coup, est surcontrôlée quand même.
Voilà. Le niveau
et donc
de
peut se sentir agressé par l'idée d'être tout le temps contrôlé, de se sentir louche en permanence.
Alors, il y a une autre dimension qui s'ajoute à ça. C'est quand même que la plupart des contrôles ne donnent rien. Donc, la question qui se pose, c'est...
À quoi ça sert ?
Voilà, quelle est l'utilité policière de ça, en sachant que pour les policiers, il y a souvent un raisonnement sur les bénéfices du contrôle. Pour les policiers, il y a une dimension de contrôle de la criminalité, il y a une façon d'assurer l'ordre, leur autorité, il y a de collecter de l'information. Est-ce qu'ils utilisent vraiment l'information qu'ils collectent ? Ça, c'est une question qui est une vraie question. Mais le coût du contrôle est très peu mesuré. Comment c'est vécu par les gens. On a fait une étude comparée sur police française et police allemande et on se rendait compte que les policiers allemands contrôlent beaucoup moins et ont beaucoup plus de réflexivité. C'est-à-dire que certain nombre de situations, ils se disent contrôler, ça aura sans doute plus de conséquences négatives parce que je vais durcir les relations, je peux avoir l'information par mon collègue, que le policier français qui souvent considère que, après tout, c'est son droit.
Il y avait une promesse du président François Hollande qui était a priori destinée à détendre un peu cette question-là, qui était celle du récépissé d'identité. Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur hier, a affirmé que c'est une mesure qui n'aura pas lieu. Un récépissé d'identité, c'est quoi ? C'est un papier qu'on pouvait tendre pour montrer qu'on a déjà été contrôlé récemment ?
Oui. Oui, et qui permettait aussi à l'administration de l'enregistrer. Donc ça permettait d'avoir...
Ça, c'est la défense du ministre qui dit que ça créerait un fichier supplémentaire, on ne va pas créer des fichiers des gens contrôlés.
Oui, c'est effectivement un alourdissement aussi. On voit que dans les pays où vous avez ces récépissés, c'est un alourdissement bureaucratique du travail des policiers, et ce n'est pas tout à fait ce qu'ils cherchent. Après, c'est des choix politiques à un moment donné. Le fait est que ça avait été une promesse qui n'a pas été tenue en 2012. Moi, ce que j'ai tendance à souligner, c'est que quand je vois la situation anglaise où la ministre de l'Intérieur, Theresa May, hein, c'est pas une libérale acharnée, quand elle était ministre de l'Intérieur, a pris des positions extrêmement dures vis-à-vis de la police en disant, voilà, stop and search, est-ce que c'est effectif, est-ce que c'est efficace en travail policier, est-ce que c'est juste? Elle a été à l'origine d'inspections qui ont véritablement interrogé les professionnels sur ce qu'ils faisaient des stop and search. Et donc, et ça se base sur quoi? Ça se base sur le fait qu'on a une mesure des stop and search, de où ils sont exercés, de combien sont exercés, etc. Donc, en termes de travail policier, ça me semble être un outil. Il y a un problème public. Mais il y a aussi des éléments pour le travail policier lui-même qu'il ne faut pas du tout négliger.
Alors on sait que voilà, qu'il y a en France, il y a un moment ce qu'on appelait la police de proximité qui a été supprimée. On voit qu'on sort d'une période où après les attentats contre Charlie, il y a eu tout à coup même la fameuse chanson de Renaud, j'ai embrassé un flic. Il y a eu un rapprochement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une façon de réconcilier la police et les habitants? Ou est-ce qu'aujourd'hui la police est partie? Est-ce que maintenant on est vraiment en colère? Est-ce qu'on déteste les flics? Est-ce que c'est uniquement un ressenti? Est-ce qu'il y a un problème de formation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que la police peut faire pour se rapprocher des gens?
On a une relation...
Pour être à nouveau crédible?
Oui, on a une relation qui est très ambivalente à la police. C'est je t'aime moi non plus, on les aime en janvier 2015, on les déteste pendant la manifestation pour la loi travail.
Est-ce qu'ils travaillent trop? Est-ce que tout à coup, est-ce qu'il y a un pétage de câble dans la police actuelle?
Ce qui est intéressant, c'est quand on compare l'épisode octobre-novembre 2016, les policiers en colère, les gens derrière les policiers qui ont des conditions de travail difficiles, les policiers qui sont agressés à Viry-Châtillon, et l'épisode actuel où, en gros, c'est le même en inversé. Donc, le travail policier, c'est ambivalent. Ce qu'on peut dire, c'est que j'avais, avec quelques autres, signé un rapport pour Terra Nova en novembre, qui est sans doute sorti du coup au mauvais moment. Ça s'appelait « Police et population pour des relations de confiance ». Il y a aujourd'hui, par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, voire même les États-Unis, où il y a une vraie réflexion sur le rapport police-population, un vrai enjeu, parce que ça ne fait pas nécessairement partie de notre histoire longue, de comprendre que la police, elle est au service des usagers, elle est au service des citoyens, même si elle peut utiliser la force, et bien évidemment, c'est son droit. Et donc, on a une police qui est centralisée, et ça pose toute une série de questions sur comment est-ce qu'on rend des comptes localement, comment est-ce qu'on forme des jeunes qui viennent de Carcassonne et qui sont, à 22 ans, envoyés en Seine-Saint-Denis parce qu'ils n'ont pas de points, qui sont formés pendant 12 mois avec une formation qui est d'abord juridico-technique. Ben, comment j'interagis avec quelqu'un qui n'a pas envie de me voir? Avec des doctrines d'action qui sont quand même plutôt avec l'idée qu'il y a une forme d'hostilité de la population. Donc il y a un chantier qui est...
Donc ils ne sont pas formés. La police actuelle, enfin cette génération-là, pour le moment, n'est pas formée à la réalité. Donc ce n'est pas très optimiste, là, ce que vous dites.
Ce qui est optimiste, c'est que ça peut changer, c'est qu'ils sont plus diplômés, c'est qu'ils sont aussi dotés de réflexivité. Et ce qui est optimiste, c'est qu'on peut imaginer que le constat est fait, qu'un certain nombre de voix sont portées pour qu'il y ait une dimension plus relationnelle dans la formation des... plus relationnelle et territoriale dans la formation des policiers.
Chèque de Maillard, vous êtes professeur en sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin, je rappelle, sociologie de la police chez Armand Collin. Merci beaucoup d'être passé par ici.
Merci.
Merci.
Plus près de toi, 7h-9h.
C'est où déjà plus près de toi? Tu savais, non?
C'est une musique très bien.
Vous la chantez très bien, cette musique.
Merci, mon petit de leur mot. Ouais. Alors, tout de suite, mettez-lui un petit jingle. Je comprends pas du tout cette émission. Je trouve que cette émission se... Je sais pas, quel est le verbe qui irait avec
ça? Se délite.
Merci, François Rollin.
Jingle.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie?
Misset.
Ça va être la revue de presse de Marie Misset. Oui. François Rollin, vous restez, ça va aller ou pas?
Non, il n'a pas envie. Là, il me dit
François, est-ce que ça va, franchement?
La revue de presse, j'ai toujours du mal. Mais bon, oui. Comme ça sent l'écurie, c'est les dernières longueurs avant 9h. Allez, je tiens.
Ah, vous me vendez bien. Je serre les Marie Misset, qui est notre star, je vous signale. J'ai de regardez, j'ai des
tweets. Oui, mais c'est pour ça. Elle est tellement star qu'elle n'a pas besoin de moi pour en rajouter.
Marie Misset, qu'est-ce qui s'est passé dans la presse ce matin?
Eh bien, on ne peut pas trop y échapper au sujet phare du jour. Nulle part, comment concilier l'amour et le reste? Comment concilier amour et PSG dans Le Parisien? Comment concilier amour et possibilité infinie de nouvelles rencontres qui sera peut-être mieux que la précédente et on ne sait pas que celle d'après? Ça, c'est dans Le Temps quotidien suisse en proie des vertiges face aux applications de séduction. Dans Les Échos, on n'abandonne pas sa ligne éditoriale. On est en couple, certes, mais on entreprend quand même. On devient un couple d'entrepreneurs. Et même hier soir, sur les sites de restauration en ligne, tout était bon pour vous vendre des roses. Bref, de quoi se poser la question que pose Philippe Catherine. Au fond, qu'est-ce qu'on veut? Lui, il répond des bisous, des bisous, des bisous.
C'est dans quel journal, ça?
Ça, c'est Philippe Catherine dans
Des bisous,
dans
des bisous, la chanson.
Voilà.
Oui.
Au fond, qu'est-ce qu'on veut? Et au final, c'est quoi l'amour? Allons plus loin, c'est quoi le mariage? Lucia Berlin, il répond dans le quotidien suisse, Le Temps. C'est qui, Lucia Berlin? Eh bien, c'est une écrivain franchement méconnue de son vivant. Elle était américaine. C'était une nomade en cœur et en corps qui a parcouru son siècle et son monde.
En cœur et en corps, oui. Le nomadisme de corps. Lucia alors, hein, pas Lucien, Lucia Berlin.
Lucia Berlin, ouais. Oui. Elle a laissé derrière elle de très beaux recueils de nouvelles qui sont actuellement traduits un petit peu partout. On envie ses enfants qui racontent. Elle nous a trimballés dans les rues de New York pour aller dans les musées ou pour écouter du jazz. Et puis tout d'un coup, on était à Acapulco ou ailleurs. On déménageait tous les 6 mois, mais la vraie maison, c'était elle, sa voix et sa tendresse. Et quand elle écrivait, c'était des histoires vraies, pas forcément autobiographiques, mais pas non plus très éloignées de la réalité. On la compare à John Fante ou Raymond Carver et son chef-d'œuvre qui se passe demain en traduction, c'est le manuel à l'usage des femmes de ménage où elle écrit donc « Qu'est-ce que le mariage ?» Je n'ai jamais compris et aujourd'hui c'est la mort que je ne comprends pas. Les mystères insondables sont mes préférés et parmi eux, il y a ce livre auquel Lacroix consacre une double page aujourd'hui, le manuscrit Voynich, un ouvrage du XIVe siècle qui appartient à l'université de Yale, qui a confié la grosse mission de le reproduire à une maison d'édition espagnole. C'est un manuscrit codé, incompréhensible, pour l'instant encore indéchiffrable, sur lesquels certains se sont cassés les dents au point d'en perdre la tête. On y trouve par exemple des dessins de plantes dans la première partie, mais des plantes complètement Frankenstein, avec les racines d'une plante, le feuillage d'une autre et la fleur d'une troisième. Au milieu d'une écriture qui semble compréhensible mais reste très hermétique, on trouve ensuite un monde de femmes miniatures qui prend des bains. Un manuscrit du XIVe siècle, donc le Voynich, raconte l'éditeur en charge de sa reproduction, est obsédant, plus d'un est devenu fou, il dit. Newbold en a perdu la raison. C'était un philosophe américain disparu en 1926. Newbold, le cryptologue en chef de la NSA, lui aussi y a laissé des plumes après la Seconde Guerre mondiale. Bref, un livre fou, le Voynich et un article à lire dans La Croix. Dans le genre...
Vous avez une cosmogonie étonnante, Le Temps, La Croix, c'est pas les journaux de tout le monde que vous citez.
Ah oui. Dans le genre mystère insondable, et ça continue, la physique quantique se pose là. Dans la version américaine de Weiss Motherboard, la branche scientifique et future de Weiss, on nous explique que des machines de deep learning sont en train d'apprendre la physique quantique.
De deep learning.
Ouais, elles apprennent profondément. Ouais. Ouais. C'est les machines qui sont capables d'apprendre à elles-mêmes. En fait, elles apprennent toutes seules.
Mais nous, là-dedans, tout le monde s'en fout.
Et bah exactement. Ouais. Elles sont en train d'apprendre la physique quantique toute seule, hein, sans nous, et elles parviennent à des résultats que donc les scientifiques les plus fous ne comprennent pas trop. Et puis si on scrolle un petit peu plus dans les articles de Weiss Motherboard, on scrolle, aspiré par un désir de toujours comprendre moins ce qu'on lit, on tombe sur cet article de fin janvier qui dit que la théorie qui dit que nous vivons tous dans un hologramme, un univers en 2 dimensions projeté en 3, est de plus en plus probable. En tout cas, c'est ce que soutient Elon Musk, fondateur de PayPal, de SpaceX, de l'Hyperloop, j'en passer des meilleurs. Le fait que nous vivions tous dans un hologramme, pourquoi pas, n'empêche cependant pas le vivant de vivre en 3 dimensions. Et pour terminer sur les mystères de la vie et de l'amour, interrogeons-nous comme Luc Jacquet sur les manchots empereurs. Il y a un deuxième film qui sort demain. Dans Le Parisien, il explique qu'avec la maturité, il apprécie 100 fois plus les mystères de ces manchots. Ceux-là même qui, je cite, en quelques minutes passent de l'irradiation lumineuse de la banquise à l'obscurité totale des abysses. comme moi, un petit peu pendant cette chronique.
Non, c'est bien. Alors justement, Marie Missé, si tout à coup on vous apprenait que vous n'existiez pas vraiment, qu'est-ce que vous feriez ?
Je pense que ça ne changerait pas grand-chose.
Vous meneriez la même journée ?
Oui, je pense que... Oui, voilà, j'existe, j'existe pas, je suis là en tout cas.
Roland, on vous dirait que vous n'existez pas, vous feriez quoi ?
Non, dans un premier temps, moi je suis très frappé au contraire par la puissante conscience d'être qui est chez Marie.
Oui.
Je trouve ça très très fort et très impressionnant.
Vous êtes plus dans l'avoir que dans l'être. Hein. Je sais que vous amassez beaucoup, beaucoup en ce moment.
Dans l'avoir et dans le paraître.
Oui.
Mais tout ce qui est un peu profond, tout ce qui est un peu émotionnel, ça me passe au-dessus du bonnet.
Oui. Le journal de Thierry paraît 8h32. C'est bien le truc de bouche, le...
Oui. Les suites de l'affaire Théo, François Hollande et Bruno Leroux, le président et le ministre de l'Intérieur, vont se rendre en Seine-Saint-Denis ce matin. Il y a eu de nouveaux incidents cette nuit en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne ainsi que du côté d'Angers, aussi dans la région Pays de la Loire. Et puis on a appris aussi ce matin que le patron des quatre policiers mis en examen dans cette affaire, après la violente interpellation de Théo à Aulnay-sous-Bois, avait été condamné en mars 2008 dans une affaire de violence policière déjà. Un petit tour et puis s'en va. Michael Flynn vient de démissionner, moins d'un mois après son entrée en fonction. Le conseiller américain à la sécurité nationale, ancien général, fidèle de la première heure de Trump, était au centre d'une controverse puisqu'il avait évoqué avec des diplomates russes les sanctions visant Moscou sans avoir de fonction officielle. C'est donc la première crise de l'administration Trump. On reste aux États-Unis et on parle toujours de Donald Trump. Il promet de répondre très fortement aux essais de missiles de la Corée du Nord. Une déclaration faite lors d'une conférence de presse commune avec le premier ministre canadien hier, Justin Trudeau. Pyongyang a annoncé le lancement d'un nouveau missile balistique. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni cette nuit en urgence pour condamner ce nouvel essai et menacer la Corée du Nord de nouvelles sanctions. Les députés et les sénateurs ont rétabli le délit de consultation habituelle des sites djihadistes. Cette mesure a dû être réécrite après avoir été censurée par le Conseil constitutionnel. Les magistrats avaient estimé que le texte portait atteinte aux libertés fondamentales alors que la France était déjà dotée d'un arsenal législatif important pour lutter contre le terrorisme. 4 morts, 3 membres d'une même famille et leurs moniteurs, c'est finalement le bilan définitif d'une avalanche à Tignes. Une plaque de neige large de 400 mètres s'est détachée au passage des victimes, des snowboarders qui évoluaient à pied au moment du drame, à pied et en hors-piste. Des chercheurs australiens et danois ont découvert chez un ver un gène responsable de la sensation de satiété qui pourrait aider à combattre l'obésité. La justice américaine valide les poursuites intentées contre Lance Armstrong. On se dirige donc vers un procès pour la star déchue du cyclisme mondial. Le ministère américain de la justice réclame à l'ex-champion près de 100 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir fraudé l'État en étant parrainé par l'US Postal Service, le service public de la poste américaine. Le retour de la Ligue des champions de football, il n'y a plus que 16 équipes en compétition, dont le PSG et Monaco. Coup d'envoi des 8e ce soir. Benfica reçoit le Borussia Dortmund et puis le PSG reçoit Barcelone au Parc des Princes. Et puis les intempéries qui touchent le sud de la France depuis le week-end dernier se poursuivent. Aujourd'hui, l'Aveyron rejoint la liste des départements placés en vigilance orange. Il y a aussi l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Alerte orange à la pluie aux plus violentes.
Merci Thierry Paret, il est 8h35.
Il y a eu un petit peu de vent
8h35.
Aussi.
7h, 9h, plus près de toi.
Nova, plus près de toi.
7h, 9h.
Ça sent le café, la tartine.
Alors il y a des écrivains du matin, il y a des écrivains de la nuit. On va voir à quelle catégorie appartient Jean d'Ormesson.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non ?
Réveillons un monument national.
Écrivain, philosophe, moraliste, ami de Français depuis tant d'années, Jean d'Ormesson est entré récemment au Panthéon de la littérature en accédant à la mythique Pléiade, cette collection qui fait l'honneur de la France et de Gallimard. Bonjour Jean d'Ormesson.
Bonjour.
Jean, il est 8h39.
Oui.
Je propose d'orienter, si vous voulez, d'organiser cet entretien en 3 parties, puisque vous êtes un ancien normalien. On va évoquer votre hygiène au sens propre, c'est-à-dire l'hygiène sanitaire, ensuite l'hygiène alimentaire, et ensuite éventuellement l'hygiène morale et intellectuelle. Est-ce que ça vous va ?
Mais très très bien, surtout l'hygiène du sommeil.
Ah, l'hygiène du sommeil, c'est-à-dire qu'il vous faut combien d'heures de sommeil ?
Ah ben c'est effrayant, vous savez, la plupart des gens passent 6 heures ou 7 heures à dormir, moi je dors 8 heures ou 9 heures. J'ai passé plus du tiers de mon existence à dormir.
Est-ce que c'est ce fameux sommeil du juste ou est-ce que c'est un sommeil hanté de cauchemars, de regrets et de remords ?
Mon cher ami, c'est le sommeil du juste. Je mets la tête sur l'oreiller et je m'endors. Et je me réveille, je dois vous dire, de bonne humeur, à peu près content, C'est un moment délicieux. Il y a deux moments délicieux dans ma vie. C'est quand je m'endors, ça c'est ce qu'il y a de mieux, et quand je me réveille. Après, ça se gâte, là. La journée, évidemment, les ennuis commencent. Mais je l'attaque de bonne humeur.
Est-ce que parfois vous rêvez que vous dormez, ou vous rêvez que vous êtes éveillé, ou est-ce que vous rêvez que vous rêvez?
Mais absolument. Il y a 3-4 jours, j'ai rêvé d'une amie, et je me suis réveillé, et elle m'a dit « Mais tu as rêvé beaucoup de moi ». Et c'était de nouveau un rêve dans le rêve.
Ah oui, c'est terrible.
Et quelquefois, ça prend 3 fois. Est-ce... Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a un film Inception comme ça, avec DiCaprio. Est-ce que là, par exemple, qu'est-ce qui nous prouve qu'on est dans le réel? Est-ce que vous préféreriez que cet appel soit un rêve ou un cauchemar? Ou est-ce que ça vous rassure que ça soit réel?
Mais la vie est un songe. Je l'ai toujours cru. Vous savez, la vie est un songe. C'est un songe très, très bien... très très bien cohérent, très très bien organisé, mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit autre chose qu'un songe. Je suis même à peu près persuadé que c'est une espèce d'illusion. C'est une espèce d'illusion, mais d'illusion bien organisée, où il y a place pour le travail, où il y a place pour l'amour, où il y a place pour le plaisir, où il y a place pour les emmerdements, considérablement. Mais tout ça est quelque chose qui, dont nous nous réveillerons, vous savez. Nous nous réveillerons et nous nous réveillerons avec la mort.
Alors ce sont des thèmes à la Borges, hein, vous êtes un grand lecteur de Borges. Est-ce que vous trouvez que c'est rassurant de se dire qu'on ne vit pas vraiment, que nous rêvons tout ça?
Écoutez, je pense de plus en plus que c'est une espèce de jeu que nous jouons. Ce jeu peut être tragique, vous savez, je ne nie pas le tragique du monde. J'ai passé souvent pour un écrivain du bonheur. Vous savez, je sais très très bien que le monde est tragique. Le monde est tragique, les enfants meurent, les juifs sont assassinés, les chrétiens d'Orient sont malheureux, les tsunamis sont là, j'ai des amis dont la maison a entièrement brûlé. Je ne vous parle pas de ceux qui ont perdu la personne qu'ils aiment, ou des enfants, quelquefois.
Ou des jeunes hommes qui marchent dans Aulnay. Non, pas du tout. Vous le dites, c'est une fête en larmes, oui, c'est ça.
C'est une espèce de rêve.
Alors Jean, raccrochons-nous à des choses très réelles, très concrètes qui vont nous rassurer. Je voudrais connaître vos rituels du petit déjeuner. Est-ce que vous êtes un homme à attaquer son café fièrement? Est-ce que vous êtes un homme à aller mollement vers le monde de la tisane et du thé?
Alors, je prends du chocolat, de l'ovaltine, du lait, je prends 4 ou 5 tartines. Le petit déjeuner, c'est le meilleur moment.
Donc...
Vous savez, comme tout le monde, qu'il faut petit déjeuner comme un roi. Déjeuner comme un prince et dîner comme un mendiant.
Alors parlez-vous à Vomaltine, vous vous rattachez au monde de l'enfance parce qu'on est sur un chocolat en poudre dans lequel on rajoute un petit peu de lait. Ce sont un petit peu des rituels d'enfance, la petite tartine qu'on confiture. Voudrais-tu, ma jolie cocotte, que je confiture ta biscotte?
Mais il est interdit d'en parler, ça fait de la publicité.
Mais c'est très bien, vous recevrez des pots de Vomaltine chez vous. Jean, je vous imagine...
Alors, oui,
allant...
J'aime beaucoup le Vomaltine,
oui.
J'aime beaucoup les confitures. J'aime beaucoup le miel. J'aime infiniment le miel.
Vous êtes un homme de salle de bain, Jean? Vous êtes un homme de douche, de baignoire, de bain moussant, de grattage de dos avec un gant de crin?
Pardon?
Est-ce que vous vous grattez le dos avec un gant de crin? Est-ce que vous avez une hygiène irréprochable du matin?
Est-ce que vous avez une...
Une hygiène irréprochable le matin. Est-ce que vous vous lavez soigneusement?
Et c'est très important. Ouais. La douche ou le bain... est très très importante, oui sûrement. Je peux me passer de beaucoup de choses, vraiment, je peux me passer de beaucoup de choses. Je me passerai difficilement de la douche ou du bain le matin.
Alors, est-ce
ou
que
du
c'est...
soir, en général, quelquefois le soir, quelquefois le matin.
Est-ce que c'est une douche complice, une douche à température tempérée, ou est-ce que c'est une douche comme une paire de claques qui part dans les glacés ou les brûlants?
Oh mon pauvre ami, c'est une douche extrêmement douce. Je n'aime pas du tout les claques, je n'aime pas les bains glacés. Je ne vais pas peut-être jusqu'à... Vous savez que Napoléon, le repos de Napoléon, c'était un bain brûlant. Il aimait les bras très, 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 très chauds. Mais pas que là, mais j'essaye de faire de ma vie quelque chose d'à peu près supportable.
Donc on est dans une caresse aquatique, quoi. C'est une eau qui est tempérée, qui vous caresse le visage. C'est comme la main d'une femme aimée, un peu.
Oui, enfin, ça ne la remplace pas tout à fait.
Non, on peut allier les deux.
Si vous me faisiez choisir.
Oui.
Dieu sait que j'aime le bain, mais enfin, je préfère peut-être l'autre solution.
Donc vous avez pratiqué la douche à plusieurs, Jean, dans votre vie, ou le bain groupé?
Très peu.
Très peu.
Très peu, je n'aime pas beaucoup travailler en équipe et je n'aime pas me doucher à trois.
Très bien, je vous remercie. Je pense qu'on apprend à mieux vous connaître. Jean, rassurez-nous maintenant sur l'hygiène mentale et morale. Est-ce qu'il y a des mantras que vous répétez le matin, des phrases qui vous construisent et qui vous tiennent pour la journée?
C'est drôle, ça, ce que vous dites. J'ai été malade récemment. Je suis complètement guéri. Mais j'avais remarqué qu'à l'hôpital, il y avait une petite affiche en disant « Ne téléphonez pas le matin ». Et c'est tellement vrai. Le matin, vous savez, je suis enchanté de vous parler, mais le matin, je suis plutôt britannique.
C'est-à-dire ?
Je ne parle pas beaucoup le matin, mais quelquefois, je me répète des petites choses le matin. Oui, c'est vrai. Quelquefois aussi, quand je me réveille, il me semble que j'oublie des choses. Et ça me revient dans le quart d'heure d'après ou la demi-heure d'après. Je suis encore en buée de sommeil, voilà.
Alors je voudrais une phrase pour nous mener vers cette journée.
Oui, je vous donne une phrase.
Oui.
Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de face toujours assassiné? Il semble que le sort partout me les adresse et j'envoie chaque jour quelques nouvelles espèces.
Merci, cher.
Vous avez reconnu Molière,
c'est Molière, oui.
Il est fâcheux. Et alors ça, c'est l'entrée dans la vie après le sommeil. C'est beaucoup moins agréable que le songe du sommeil.
Merci, cher Jean, de nous avoir rangés dans cette catégorie. On vous embrasse très fort.
Je vous embrasse tous.
Très belle journée à vous. Salut. Alors, Jack, souvent et toujours dans les rues lyonnaises.
Oui, alors là, carrément, je suis dans un camion. On déménage. Et donc, matériel de bricolage, je fais tout. Là, il y a la cocotte en fonte, les housses de couette, ça arrive de Rennes. Et je suis avec un déménageur dans le camion. Et il y a un petit signe sur le... Un petit signe, c'est quoi? Attention.
Attention, c'est... Ça veut dire, à mon avis, vaisselle fragile ou un truc d'un genre. Oui. Voilà.
Il y a des petites surprises dans les cartons.
Eh ouais, ça arrive.
Et là, vous attaquez les machines à laver et puis le c'est quoi?
Ça, c'est un buffet breton. Un meuble breton.
Vous arrivez de Rennes?
Ouais, c'est ça.
C'est une famille de Rennes qui vient s'installer à Lyon?
Non, c'est une dame qui s'est séparée de son mari, qui est militaire, et voilà. Elle vient s'installer sur Lyon.
Vous pensez qu'il l'a battée?
Non, quand même pas.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ce couple? Vous croyez vous les connaissiez?
Non, pas du tout. Absolument pas.
Elle vous a fait des confidences?
Pas du tout.
Et vous pensez que la séparation des objets s'est faite dans le calme ou pas?
Oui, 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 tout à fait.
Parce que le buffet breton était du côté de monsieur, je crois.
Hein. Buffet énorme, ouais. Moi, je me suis fait traiter de breton. Il paraît que j'ai une tête, j'ai une polytête, m'a dit le frère de la dame. Je saute, j'y vais.
Ça n'existe pas, les déménageurs bretons?
Si, si. Monsieur, prenez ce casque. Voilà, vous m'avez traité de polytête tout à l'heure.
Oui, parce que vous avez dit vous-même que vous aviez une tête de russe, une tête de breton, une tête de normand. Donc c'est la polytête. C'était la maxi-tête auparavant, c'est la polytête maintenant.
C'est une tête qui évoque toutes les autres têtes?
Oui, on peut dire ça, mais avec un petit quelque chose en plus.
C'est-à-dire chaque partie de la physionomie de Jacques Souvent est régionale. Il a le nez alsacien, les oreilles limousines et la mâchoire bretonne. Oui.
Complètement, Edouard, c'est un portrait robot en fait.
Je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous laisse continuer ce déménagement. Je dois reprendre l'antenne face à l'afflux d'informations et d'invités que j'ai.
On enchaîne, on monte au deuxième.
Allez au deuxième étage, aidez à déménager. Merci.
Oh là là.
On vit une époque formidable. La vie qui va, qui danse, qui pleure.
On vit une époque formidable.
Magnifique, c'est magnifique.
Thomas Baumgartner, aidez-moi à resserrer les 8 dernières minutes de l'émission.
qui vont passer vite en compagnie d'Anne Lafter, qui est là le mardi. Bonjour Anne.
Bonjour.
Anne Lafter des Inoccupables, qui vient nous parler politique. Et là, en l'occurrence, vous venez nous parler de la révolution digitale en politique. C'est-à-dire pas seulement comment un homme politique a sa chaîne YouTube ou d'autres manières, mais profondément une révolution qui est en route et qui risque de continuer.
Oui, tout à fait. Alors, ça n'a rien à voir avec la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. On est sur un créneau qui se situe entre la communication et la manipulation. Alors, aux dernières nouvelles, les renseignements français s'inquiéteraient de potentielles cyberattaques russes en faveur du Front National. Hein.
Et contre Macron, il paraît que ça a commencé.
Tout à fait. Alors, comment ? Grâce à des robots qui inonderaient les réseaux sociaux ou de messages de soutien, ou alors en déstabilisant ses adversaires, comme Macron.
Ou avec des messages subliminaux qui passeraient pendant les émissions.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, l'équipe de Macron s'en est plainte, des attaques informatiques, des fake news, notamment de la part de Julian Assange, qui jure détenir des emails d'Hillary Clinton comportant des infos sur Emmanuel Macron. Alors, c'est compliqué.
Il bosse pour les Russes, Assange, maintenant ?
Si, je ne sais pas, je n'ai pas les infos là, désolé. Ouais. Alors, il n'y a pas rien de nouveau hein, que des mouvements et des États essayent d'influencer les élections hein, ou détruire des réputations. La nouveauté réside dans la puissance de la viralité du net qui démultiplie la force de ces attaques. Mais pendant que nous, on parle de fake news, on passe peut-être à côté du plus important. Parce que la vraie révolution, c'est l'entrée des big data et de la psychométrie dans la communication politique. Alors la psychométrie, Edouard,
c'est ça, oui.
Oui, voilà. C'est une branche de la psychologie qui s'appuie sur l'analyse de données. Alors je vais vous expliquer, ça va être court.
Avec plaisir.
Alors à l'origine de cette révolution, on trouve Michal Kosinski, c'est un chercheur qui a développé une méthode pour analyser une personnalité en une minute sur la base de son activité Facebook. Alors on peut apprendre qu'un homme qui like Apple a plus de chances d'être gay. Voilà. Ou qu'un des meilleurs indicateurs de l'hétérosexualité est de liker le groupe Wu-Tang Clan. Bon. Alors, plus fascinant, Kosinski a prouvé qu'en observant une moyenne de 68 likes Facebook, on pouvait déduire à 95% sa couleur de peau, à 88% son orientation sexuelle et à 85% ses préférences politiques. Et c'est là que ça devient intéressant.
Et l'adresse de son dentiste.
Exactement, mais oui, mais même sa consommation d'alcool, de cigarettes, de drogue et si ses parents sont divorcés. Alors, tout est dans notre smartphone. Et comme il y a des vendeurs de data peu scrupuleux et des entrepreneurs peu scrupuleux, il y a des entreprises qui fructifient là-dessus. Notamment Cambridge Analytica, qui est une compagnie qui dit détenir les profils de 220 millions d'Américains. Alors, par exemple, vous êtes un mouvement politique. Vous avez envie de parler aux femmes noires indécises de banlieue ou aux mères de familles blanches de zones rurales. Eh bien, vous appelez Cambridge Analytica et ils vous fournissent leur mail, leur nom et leur localisation. Il reste à vous à envoyer des messages, par exemple, pour les dissuader de voter. Eh bien, figurez-vous que ça s'est fait parce que les deux clients de Cambridge Analytica les plus célèbres, c'est Nigel Farage, monsieur Brexit, et Donald Trump. Et qui on trouve au conseil d'administration de cette entreprise ? Eh bien, Steve Bannon, le cerveau maléfique de Donald Trump. Alors vous allez me demander, mais est-ce que Marine Le Pen pourrait profiter d'une telle mécanique ?
Mais est-ce que Marine Le Pen pourrait profiter d'une telle mécanique ?
Ah oui, c'est préparé tout ça.
Alors, difficile de faire un pronostic, même si les trolls de Trump ont déjà monté quelques faux comptes pour soutenir Marine Le Pen, j'aurais plutôt tendance à dire que le retard français par rapport à la politique américaine nous reporte à 2022.
Bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que vous en dites, Baumgartner, vous, de ça ?
C'est-à-dire que la sociologie politique n'a plus rien à voir avec ce qu'on nous a appris à l'école. Quoi.
Et puis alors, si le monde va comme ça, il est fort probable qu'un jour, il y aura même dans les entreprises des machines qui serviront du café. Donc on est là. Par exemple, vous dites, j'ai besoin d'un café. Au lieu de le faire vous-même, Roland, avec une cafetière, on va vers un truc où on appuie sur un bouton et...
Mais ça existe déjà, hein, monsieur.
Ouais,
non, mais je te le dis.
Et je crois qu'après, on peut faire des... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, François Roland ?
Resco-référence.
Oui, c'est-à-dire ?
Je frémis en parlant.
Ça tombe bien que ce soit vous, François Rollin, parce que c'est le moment du grand jeu de François Rollin. Est-ce qu'on a le temps ? Merci beaucoup, Anne, en tout cas, pour ces informations réjouissantes, puisque j'ai décidé de me réjouir de tout. Hein. C'est une hygiène, mentale.
Pour ne pas en mourir.
Oh, c'est très beau. De peur
beau,
d'avoir...
Beau marché. On l'a dit Molière, on peut dire bon marché.
Armel, où
oui,
on
bonjour,
est du
Edouard.
Timing de l'émission ?
Il reste 4 minutes.
Et on a plus de pub, on a réussi à la liquider.
Si, mais on peut la passer à la fin et
voilà.
Faire le jeu d'abord.
François Rollin, un grand jeu qui...
Alors c'est un grand jeu, oui.
Et
qui a un plus ce matin, puisque ce jeu permet de gagner un week-end à la montagne avec Edouard Baer.
Alors, est-ce un cadeau ? C'est ce qu'on verra.
Avec deux pots de vos
maltines. Alors, il s'agit d'un QCM en trois questions.
Oui.
Donc, dès que j'ai un auditeur.
Alors,
en
on
ligne,
avait prévenu pendant la pub, on a des auditeurs ont appelé, et je crois que c'est un auditeur de sexe féminin qui s'appelle une auditrice. Allô ?
Oui, allô ?
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez accepté de jouer avec François Rollin, vous inscrivant sur Internet sur le site de Nova. Mm-hmm. Ça tombe bien, le voilà. Vous l'imaginiez comme ça, François Rollin ?
Elle me paraît
non,
très...
Non, mais je demande à madame si elle vous imaginez comme
pardon.
Ça.
Pardon. Oui, oh ben, Atman, hein.
Vous, est-ce dessous, que, hein, déjà, je sais que vous écoutez
ça
l'émission.
Va rire.
Vous nous l'avez dit, est-ce que vous l'imaginiez comme ça, François Rollin ?
Oui, bah oui, ça correspond bien, oui.
Oui, effectivement. Mm. Alors, François...
Alors, en avant. Elle a dit son prénom ou pas, cette auditrice ?
Non, mais peut-être qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle a peur du big data.
Oui.
Hein ? Dites-le quand même.
À mon avis, vous êtes une mère de famille noire blanche de 14 ans.
Oui.
Qui vote Front National, Fillon, Macron.
Alors, attends, bon, un peu de sérieux, parce
allez, s'il vous plaît.
Il y a un
enjeu
quand même. Alors, la première question est celle-ci.
Quel est le prénom ? Mademoiselle ?
Alice.
Avec Alice.
Alors, Alice, première question. En micrométallurgie, quel emploi souple de phase revient symétriquement en infériorité du procédé ?
Facile.
Le chandro, le verbium ou la boulgache ?
La boulgache ?
Non.
Non.
Le chandron.
Non, bien sûr.
Deuxième question. Si un stoppeur de brebis met 4 jours pour dessillonner 5 litres de crémage, quel outil devra-t-il utiliser pour purger un snowmixer, c'est-à-dire un mélangeur de neige ? Oui. Le chandron, le verbium ou la boulgache ?
La boulgache.
Non,
non,
le chandron.
Non, non, le chandron, madame.
Troisième et dernière question. Au premier tour de l'élection présidentielle, que pourrait se disputer virtuellement Emmanuel Macron et François Fillon ? Le chandro, le verbium ou le colombier ?
Le chandro.
Oui, le chandro.
Ah, une seule réponse sur trois.
Ça suffira pas pour
qu'est-ce
le week-end.
Qu'était le chandro, François ?
Le chandro, c'est l'outil qu'utilise un stoppeur de brebis pour purger un snowmixer. Snowmixer, bon, on se comprend bien, un mélangeur de neige. Hein.
C'était le...
Oui, c'est très difficile. Quand même.
Non, Atman.
C'est pas difficile.
Voilà. Dis-moi que j'ai pas compris.
Il faut réfléchir un peu.
Vous n'êtes pas bachelier, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dit au revoir à Alice, qui n'a hélas pas gagné,
non.
Mais qu'on aime beaucoup. Pub, au revoir, merci, pardon, 32 minutes pour ce petit retard. Arrête.
Big data.
Fais pas ton Carlos. Merci à tous, on vous embrasse très fort. À demain.